Dieu vous bénisse. Vous allez entendre le message « Que ferai-je de ce Jésus qu'on appelle Christ » prêché le 24 novembre 1963 par notre précieux frère et prophète William Marion Branham. Que Dieu te bénisse, frère. Bonjour, mes amis. Je suis toujours en retard. Billy me disait que j'avais ce matin, j'ai une trentaine d'entrevues privées, et j'en ai eu deux, ainsi je crois deux ou trois. Je ne peux simplement pas voir tout le monde, vous savez, les gens attendent, ils sont sur la liste d'attente depuis des mois et des mois, et le Seigneur a accompli de grandes choses là. Oui, il est notre Dieu, n'est-ce pas? Ce matin, je suis sûr que nous sommes tous au courant de la grande tristesse qui est survenue dans notre pays, de la perte de notre président, M. Kennedy. Bien que je n'étais pas d'accord avec l'homme, de sa politique et de sa religion, quand même, il ne méritait pas de mourir comme ça. Non. Et de laisser ses jeunes enfants seuls et sans papa, et une mère qui est Mme Kennedy, bien que je ne sois certainement pas d'accord avec elle, avec sa manière et ses choses, peut-être, mais souvenez-vous, elle est une mère, elle vient de perdre ses bébés et a perdu son mari, il est tombé sur ses genoux et le sang de son propre mari s'est répandu sur ses genoux, c'est horrible. Avez-vous jamais pensé? Parfois, nous pensons qu'elle donne le ton à la nation dans les styles et ces choses. C'est peut-être le cas aussi. Mais saviez-vous que Mme Kennedy n'a jamais entendu un seul de ces messages que je prêche à ce sujet? Si elle pouvait entendre l'un de ces messages, elle pourrait peut-être se comporter différemment. Et certaines de nos sœurs qui l'entendent, elles ne veulent toujours pas s'y conformer, voyez? Elle a été élevée catholique, c'est tout ce qu'elle connaît, rien contre ça, voyez? C'est un système, rien contre les gens catholiques. C'est un système, le système catholique, tout comme le système presbytérien, méthodiste ou n'importe lequel d'entre eux, voyez, ou pentecôtiste, n'importe lequel. C'est le système, pas les gens. Mr. Kennedy, je pense, a fait un bon travail en tant que président. Mon cœur a de compassion pour sa femme et je suis très triste à ce propos que même notre propre pays, les voyous et ainsi de suite de notre pays puissent faire une chose pareille. Si vous ne pouvez pas être en désaccord avec quelqu'un correctement et prendre votre position, ce n'est pas une raison pour tuer un autre homme juste pour des choses comme ça. Et ses petits-enfants le savent. Ils disaient, l'un d'eux a dit, « Maintenant, je n'ai plus personne pour jouer avec moi. Papa est parti, voyez. » J'ai toujours pensé que ce serait mon cas un jour. Ça s'est presque produit à plusieurs reprises. Comme vous le savez, je vais me faire tirer dessus dans des pays étrangers lorsqu'ils devaient me couvrir de leur corps pour empêcher qu'on me tire dessus à distance. Alors, si un homme meurt comme ça, c'est le prix à payer qui accompagne la gloire de différentes choses. Vous voyez, je pense qu'en moyenne, un président sur quatre est assassiné et j'éprouve une grande déception à ce sujet. C'est une honte d'avoir une telle personne en Amérique qui peut faire une chose pareille. Et maintenant, pourtant, comme je l'ai dit, je n'étais pas d'accord avec sa politique. Je n'étais pas d'accord avec ses idées, sur ce qu'il essayait de faire, mais voyez-vous, c'était un homme. Et je n'étais pas d'accord avec son système religieux, je n'étais certainement pas d'accord avec ça. Mais bon, il a été élevé comme ça, c'est ce que c'était. Comme je l'ai dit, peut-être que s'il avait entendu quelque chose de différent, ça aurait pu être différent. Nous avons une chose que nous faisons ici, c'est que chaque fois qu'un des nôtres meurt, ou quelque chose du genre, même si je pense qu'en tant que qu'Église américaine, en tant que corps américain, les Américains ont élu M. Kennedy pour président, et c'était pour ça que nous sommes une démocratie. Je n'ai pas voté pour M. Kennedy, j'ai voté pour M. Nixon, parce que je connaissais personnellement M. Nixon. Et je l'aimais bien, et j'ai voté pour lui personnellement, parce que je l'aimais bien. Mais les gens de ce pays, les Américains, mes concitoyens de cette nation, ont élu M. Kennedy. Et la façon dont ils l'ont fait, eh bien, c'est entre eux et Dieu. Mais pas plus. Mais je pense, pour le bien de cette mère, un être humain, une mère qui a des enfants, Mme Kennedy, ne pourrions-nous pas nous lever un instant et prier pour elle? Seigneur Jésus, nous, des êtres humains, Nous avons des sentiments les uns pour les autres. Et nous sommes désolés, Seigneur, que notre président ait été abattu comme il l'a été, un meurtre de sang-froid. Et nous sommes si désolés que notre pays en soit arrivé là, que de tels gens soient dans notre pays, qui tueraient un être humain de sang-froid, comme ils l'ont abattu ce frère de couleur il n'y a pas longtemps, et ils l'ont abattu de sang-froid à cause de préjugés racistes. Et nous sommes désolés que de telles personnes se trouvent parmi nous, Seigneur. C'est nous, c'est notre faiblesse qui a amené ça. Et nous prions pour Mme Kennedy, cette épouse de ce, du président. Et nous savons que ces petits bébés regardent leur père qui les a quittés quelques jours auparavant, un homme heureux et qui se bagarrait et s'amusait avec eux sur le sol. Maintenant, ils n'ont plus de père. Pour cette femme, sa femme, dont son propre mari est tombé sur ses genoux et le sang a coulé sur sa robe, vient juste d'enterrer son bébé. Et pourtant, Seigneur, nous pourrions croire que la femme est dans l'erreur de la façon qu'elle donnait le ton à la nation, dans sa façon de s'habiller et ainsi de suite. Mais cela pourrait être dû à tout le peuple américain dans son ensemble. C'est ce qu'ils veulent. Alors, nous prions pour elle ce matin afin que tu l'aides et qu'il y ait un moment durant ce deuil profond où elle trouvera ce qu'est la vérité, Jésus-Christ. Accorde-le, Seigneur, le seul qui peut donner la paix et le réconfort dans les moments difficiles. Et aide-nous, Seigneur, à continuer d'être de tout notre cœur une lumière qui brille, car nous ne savons pas à quelle heure et quelle influence nous pourrions avoir sur quelqu'un d'autre. Laisse-nous resplendir la lumière de Christ jusqu'à ce qu'il y vienne. Alors le grand berger du troupeau, qui connaît toute justice, va amener chaque péché à sa rétribution, et il saura exactement comment le faire. Et d'ici là, nous nous remettons entre tes mains pour ton amour et ta miséricorde soit sur nous, au nom de Jésus. Amen. Oui, je ne crois pas qu'un homme mérite de mourir ainsi. Maintenant, M. Lincoln ne méritait pas de mourir comme ça. M. McKinley ne méritait pas de mourir comme ça. Hugh Long ne méritait pas de mourir comme ça. Aucun de ces hommes-là. Je ne crois pas en cela. Les meurtres, c'est mal. Nos gars ne se sont pas battus outre-mer pour quelque chose comme ça. Notre drapeau n'a pas été hissé pour quelque chose comme ça. Nous ne sommes pas des citoyens américains pour quelque chose comme ça. Non. Bien que notre nation soit déformée et tordue par le péché, c'est ce que font ces choses, c'est le péché. Bon, aujourd'hui, nous avons, je vais enseigner l'école du dimanche, et j'ai deux choses dont j'aimerais mentionner à l'Église. Et c'est la première chose, j'aimerais que vous me pardonniez de vous retenir si longtemps le dimanche matin quand j'ai dit ce message. Et puis, si le Seigneur le veut, la raison pour laquelle je fais ceci, c'est que parce que je suis ici parmi les miens, et j'enseigne des doctrines aussi fort que je le peux. Je n'enseigne pas ces doctrines ailleurs. Je m'en tiens qu'aux principes fondamentaux de l'Évangile. Mais ces doctrines qui sont fortes, je ne les enseigne pas dans d'autres endroits. Et puis ici, il me faut parfois une heure, deux ou trois heures pour terminer mon message. Et je vous retiens ici parfois jusqu'à midi et demi, une heure, et ça peut par rapport à ce que je faisais avant. Des fois, je restais toute la nuit presque. Je partais, nous commencions souvent à 8 heures et nous rentrions chez nous à 2 ou 3 heures du matin. C'est vrai. Après la réunion. Mais je vais essayer de, quand je reviendrai chez vous, de n'avoir qu'un petit, un sermon au lieu de beaucoup d'enseignements de ceci, à moins que je vous informe à l'avance qu'il va y avoir quelque chose, parce que j'ai les 7 trompettes, je crois, qui s'en viennent, qui rejoignent parfaitement le 6e saut. Quand le 6e saut a sonné, toutes les 7 trompettes ont retenti en même temps, vous voyez? Et ainsi, j'aimerais apporter cela à l'Église avant sa venue, si, ou mon départ, ou quoi que ce soit d'autre, si je le peux. Bon, si nous le faisions, nous vous en informerons à l'avance. Et peut-être qu'à ce moment-là, comme nous le voyons ce matin, les couloirs sont encombrés, les murs et autour. Nous allons essayer. Nous avons un endroit maintenant que nous pouvons peut-être avoir ici. Il peut accueillir environ 3000 personnes. Et c'est le bel auditorium d'une école juste un peu plus haut aussi. Et les 7 trompettes, on va essayer de les prêcher là-bas dans cette école. Et ça va nous donner beaucoup de places assises, vous voyez, pour qu'on puisse accueillir les gens. Nous voulons vous informer qu'à New York, nous avons passé un moment merveilleux à l'auditorium Maurice là-bas. Nous avons dû refuser des gens tous les soirs. Ils étaient entassés, l'incendie. L'homme qui possédait l'endroit, le capitaine des pompiers, allait fermer l'endroit si nous le laissions se tenir debout entassé comme ça. Alors nous avons dû les renvoyer et les gens dans la rue faisaient les 100 pas, priant pour que quelqu'un se fatigue, se lève et sorte pour qu'on puisse entrer et s'asseoir. Vous voyez, juste une personne. Ils attendaient juste qu'une personne sorte pour entrer. C'est celui qui allait suivant la porte. Alors il en laissait entrer un comme ça. Quand quelqu'un se levait et sortait, on devait rentrer tout à la maison. Eh bien, ils entraient et bénéficiaient d'une partie. Vous voyez, ils venaient, c'est très bien, un beau groupe de gens. Et je crois que le monde, l'Église chrétienne, a faim de Dieu. Maintenant, j'ai confiance que, merci frère, j'ai confiance que Dieu va nous accorder cette occasion où nous pourrons nous réunir et avoir ces 7 dernières trompettes. J'aime être conduit pour faire ces choses, que vous sachiez. Bien, au déjeuner des hommes d'affaires, d'habitude, leur chapitre là-bas, je crois qu'ils ont dit qu'ils avaient entre 50 et 100 personnes à leur déjeuner. Ce matin-là, ils ont vendu 1700 billets et ils ont laissé disponible le restant des places pour remplir l'endroit et tous les couloirs et le long des murs et de haut en bas des marches, il y avait des gens debout. Et quelques ministres haut placés, quelques prêtres et ainsi de suite étaient là pour écouter le message. Et donc, je comprends, je crois que ça a aidé un peu. Cela a peut-être attiré quelques-uns de plus qu'on aurait pu penser. Maintenant, donc, ce soir, nous allons avoir le message ce soir, si le Seigneur le veut, sur un sujet de comment, au sujet de votre situation avec Christ. Bon, ça va être court. Nous voulons commencer. Je vais être sur l'estrade à 7h30. À quelle heure commencez-vous habituellement? À 7h30? Oh, à 7h. Je serai donc sur l'estrade à 7h30 et je devrais avoir terminé vers 8h30 si le Seigneur le veut, car je vais être aussi rapide que possible. Je vais commencer à me pratiquer. Puis, autre chose, c'est, il se peut que des étrangers entendent des gens rire parce que j'essaie de partir d'ici, mais je n'y arrive pas. C'est un peu, j'espère que ça n'a pas l'air sacrilège, mais ma mère avait l'habitude de dire, quand les gens se réunissent comme ça, c'est comme de la mélasse de sorgho par un matin froid. Vous savez, elle est épaisse et coule lentement. Et c'est à peu près comme ça. Je vais lentement dans ce message parce que la douceur de la canne à sucre de Dieu, vous savez, nous épaissit un peu, en quelque sorte, tous ensemble. Et je ne voudrais pas que ce soit autrement. Et je veux seulement, juste comme ça, où je me souviens que nous avions l'habitude de nous lever et de chanter ce chant, « Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le Saint-Amour, l'amour divin qui verse en nous l'Esprit. » Voyez, nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. Et j'espère que ce sera toujours notre but ici. Beaucoup de ces vieux saints se sont endormis depuis, mais nous sommes toujours unis de cœur. Et je pense à cette vision ce matin-là, de les voir là-bas et la gloire et la bénédiction des jeunes statures, des hommes et des femmes. Ils ressemblaient encore à ce qu'ils étaient ici quand ils étaient ici sur la terre. Je crois qu'ils attendent notre arrivée. Un jour, nous nous rejoindrons à eux, si Dieu le veut. Maintenant, souvenez-vous que le service de chant va commencer à 7h ce soir au lieu de 7h30, 7h30. Et puis, la semaine prochaine, je vais être à Shreveport, en Louisiane, au Life Tabernacle, à Shreveport, en Louisiane. Et je pense qu'ils essaient d'obtenir l'auditorium de l'autre côté de la rue. Frère Moore a appelé hier soir pour dire que c'est un congrès annuel. Et ils s'attendent à une grande foule de gens. Je veux donner un petit témoignage juste avant de lire les Écritures. Une dame était assise ici l'autre jour. Il y avait, pour vous dire quelle est l'influence de quelqu'un qui prie pour un autre. Je me suis adonné à baisser les yeux et j'ai vu une autre dame, Margie Cox, l'épouse de frère Rodney Cox, qui est assise ici. Et la semaine dernière, je pense, quand nous étions ici, le Saint-Esprit discernait à travers le bâtiment, vous savez, comme les gens le disaient, et elle était assise. Elle est assise juste ici en ce moment, mais elle était juste un peu plus loin, quelque part là-bas. Et j'ai regardé, il y avait une dame qui était appelée, qui souffrait du diabète sucré. Et Margie était dans la vision, c'était Margie, et Margie était là. Pourtant, je regardais et je l'ai vue, et c'était un... Et j'ai pensé, j'ai regardé pour voir cette autre femme, et Margie était dans la vision, mais la lumière était sur la femme. Alors, je regardais. Je me suis dit, eh bien, si je nomme Margie, ils vont dire, bien sûr, c'est ça, c'est sûr, quelqu'un qui les connaît va dire, eh bien, son mari est l'un de ses bons amis, ils vivent ensemble, dorment ensemble, chassent ensemble et tout. Bien sûr, ils savaient cela, mais Margie ne le savait pas. Mais j'ai appelé l'autre femme qui était, je crois, une sœur de Chicago, à ce que j'ai appris plus tard. Mais il s'adonne que à l'usine, ils font des tests de diabète. Et elle était diabétique. Elle était donc en route avant hier pour se rendre à la clinique pour l'avoir. Et donc, quand elle en a parlé, je lui ai rappelé ceci. Et j'ai dit, viens ici, sœur Margie. Et je lui ai dit comment ses mains engourdissaient et comment ça, c'était une très mauvaise sensation. La petite dame travaille jour et nuit parce que là-bas, elle a une petite maman loyale qui aide son mari à payer leur maison qu'ils essaient de construire. Et elle et sa petite sœur, Nelly et Charlie, c'est le frère de Rodney. Sa femme, ils travaillent tous dans ces usines-là aussi durement qu'ils le peuvent. Ils portent leur propre, elles laissent pousser leurs cheveux. Ils ne se maquillent plus, ce genre de choses, quand elles deviennent chrétiennes. Je crois qu'il faut donner du crédit là où le crédit est mérité. Et j'ai certainement une place spéciale dans mon cœur pour cette deux jeunes femmes. Là, je lui ai pris la main et j'ai prié pour elle et elle y est allée. Et ils n'ont pu trouver aucune trace de diabète nulle part. C'était parti, alors. Une dame assise ici quelque part qui a été appelée, c'était une sœur du nom de Bruce. Je ne la vois pas ce matin, mais elle était toujours... C'est une femme qui prie beaucoup. Et cette femme est entrée et c'était la dernière fois que j'étais ici. Il n'y avait pas de carte de prière de distribuer ni rien. Il n'y avait personne, pas de ligne de prière. Alors, ils ont juste... Le Saint-Esprit a juste appelé dans l'Assemblée. Et cette petite Madame Bruce, elle avait été guérie une fois elle-même d'un cancer. Et elle avait toujours un fardeau sur son cœur pour quelqu'un d'autre et elle ne faisait que prier. Il y avait une dame de Louisville qui se mourait d'un cancer à la gorge. Et pendant qu'elle priait, le Saint-Esprit est allé directement vers cette femme, l'a appelée, et quoi qu'il y ait fait, il lui a dit qui elle était, et il lui a dit plutôt qui elle était, et quel était son problème, qu'elle avait le cancer, et a dit que tout irait bien. Et la petite dame est rentrée chez elle. Quelques jours plus tard, elle a commencé à s'étouffer au point d'en mourir, presque tellement sa gorge a enflé. Elle a touché un bon coup et le cancer est sorti. Elle est parfaitement bien, vous voyez. Ce qui s'est passé, voyez-vous, la masse elle-même est une tumeur maligne qui a une vie dedans. Vous voyez, cancer, ça vient du mot, le terme médical de crabe, ce qui veut dire qu'il a beaucoup de pattes, comme le crabe que l'on trouve dans la mer et qui suce votre sang. Et cette tumeur maligne dans sa gorge, c'est ce qu'elle faisait. Maintenant, vous voyez, je ne traite pas avec la tumeur. Je traite avec la vie qui est dans la tumeur, voyez? La vie qui est dans la tumeur est ce avec quoi nous traitons, voyez? En mon nom, ils chasseront les démons. Le mot démon signifie tourmenteur, comme du corps. Et c'était un démon. Et puis, une fois que la vie est sortie de la tumeur, bien sûr, cela fait que la tumeur commence à enfler, comme un petit chien écrasé dans la rue, quelque chose comme ça. Laissez-le au soleil pendant quelques jours, et il devient le double de sa taille. Eh bien, c'est ce qui faisait empirer la situation de la petite femme. Je l'ai souvent expliqué. Si votre état empire, c'est le signe même que vous êtes guéri. Vous voyez? Ainsi, ça empirait tout le temps, et il l'étouffait parce que ça enflait. Et là, mais ça s'est dégagé, la vie en était sortie. Et en toussant comme ça, vous voyez, comme ça, l'a fait sortir, ça s'est détaché du reste de sa chair et la substance morte, juste la masse sans vie dedans, le cancer étant parti, a été éjecté. Vous voyez, elle est tombée à l'extérieur. C'est donc ainsi que le corps est sorti. Ce n'était pas le diable qui est sorti, c'était la maison où il vivait. Il est sorti à cause de la foi de la femme, en ce qu'il lui avait dit, sachant que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ce qui a tué le cancer, qui en a retiré la vie. Maintenant, elle aurait pu retourner chez le médecin, et le médecin dit, c'est absurde, la chose est encore là, comme avant. Mais c'était vrai, la tumeur était là, mais la vie, il n'y était plus, vous voyez. Bon, et si elle était trouvée quelque part où il n'aurait pas été possible de le faire passer? Est-ce la photo?
over at Springville, Indiana, and this is an enlarged picture that she passed after prayer.
Voici la photo de la tumeur de Madame Baker de Springfield, Indiana, qui est partie après la prière. C'est une photo de ça. Voyez, c'est le corps dans lequel vivait le diable. Tout comme vous vivez dans votre corps. Il peut être petit, gros, cheveux roux, noir, peut-être, peu importe ce que c'est. Voyez, c'est soit que le diable vit dans ce corps ou Christ vit dans ce corps. Eh bien, quand la vie en sort, votre corps est encore ici sur terre. Voyez, mais la vie n'y est plus. Quand la vie en est sortie, le corps était toujours là. Puis elle s'est détachée de son corps et a été expulsée. Le corps en est sorti, mais il se trouvait dans un endroit où il ne peut pas être évacué. Alors votre corps doit prendre cette substance morte et purifier le sang chaque fois qu'il bat. Ça cause de la fièvre et tout le reste parce que c'est une infection, voyez-vous? Et votre corps doit, je pense que le corps purifie le sang lorsqu'il circule, est juste un sort d'or. Je pense que c'est ça. Le corps en battant le purifie. Une infirmière, vous savez, une autre assise juste devant elle. Puis une fille prend là et c'est ce qui cause de la fièvre, une infection. Ça prend l'infection et fait monter la fièvre. Maintenant, mes amis, voyez-vous, c'est votre foi. Ce ne sont jamais vos sensations. Elles n'ont pas d'importance. Même si ça, la main n'est pas droite, ça n'a rien à y voir. C'est la foi qui fait ça, voyez. Juste devant nous, nous voyons l'image d'une personne parfaitement guérie par la foi. Et puis, nous avançons pas à pas jusqu'à ce que nous entrions dans cette personne et nous continuons tout simplement. Voyez, c'est ça. Et ça, c'est ce que fait votre foi, pas vos sensations. Votre foi le fait. Que Dieu soit remercié et loué. Maintenant, juste un moment de prière et nous avons un sujet ici que nous voulons considérer pendant un moment pour que le Seigneur traite avec nous selon ceci. Et maintenant, si certains d'entre vous doivent partir ce matin, qui ne seront pas à la réunion ce soir, si le Seigneur le veut, je veux revenir. La famille revient la semaine de Noël. Et puis, le dimanche après Noël, si le Seigneur le veut, je veux prêcher c'est mon message de Noël, ici au tabernacle, dimanche après Noël. Si le Seigneur le veut, le sujet sera le clochard dans la rue. Maintenant, inclinons la tête et prions avant de lire le texte. Seigneur Jésus, sois près de nous en ce moment-ci. Nous savons que c'est difficile dans notre petite église alors que beaucoup sont debout. Et nous sommes ici non pas à cause du confort de l'endroit qui nous donne un confort physique parce que ce n'est pas confortable. Et nous ne sommes pas ici pour être vus, mais nous sommes ici parce que nous avons senti ta présence et nous savons que tu es ici et nous sommes ici pour être corrigés et nous sommes ici sachant que nous sommes dans la maison de Dieu et nous sommes heureux d'être ici, peu importe combien c'est inconfortable d'être debout et serré, mais nous sommes ici parce que nous sentons que Dieu est ici. Et tout comme ce garçon a dû se sentir cette nuit-là, quand Paul a prêché toute la nuit, quel long message, probablement du coucher du soleil jusqu'au lever du soleil, le lendemain matin. Et le jeune homme était installé très haut, il est tombé, ils ont cru qu'il était mort. Paul a étendu son corps sur lui et l'Esprit de Dieu qui était sur le messager a ramené l'Esprit de vie dans le corps du garçon. Il a dit, il va bien aller. Et le jeune homme a vécu. Il était intéressé à ce que Paul disait. Et Dieu, nous sommes intéressés ce matin à ce que le Saint-Esprit pourrait dire à notre cœur. Et nous te prions de rompre le pain de vie pour chacun de nous, pour que lorsque nous sortirons d'ici aujourd'hui, nous ne quittions pas ce bâtiment comme nous étions lorsque nous sommes entrés. Que les chrétiens soient plus près de toi, que les pécheurs soient changés aujourd'hui, que les malades soient guéris et puissent le royaume de Dieu s'approcher de nous ou même être en nous, car nous le demandons au nom de Jésus-Christ, alors que nous attendons son esprit pour nous donner les paroles. Amen. Maintenant, lisons quelques passages de l'Écriture qui est la parole de Dieu est toujours juste. Et maintenant, chacun de vous, je vois que vous êtes très gentils avec ceux qui sont debout. Je vois des gens se lever, s'asseoir, donner leur place à quelqu'un d'autre. C'est très bien, mais j'aimerais avoir plus de place, mais nous n'en avons pas pour le moment. Allons à Matthieu 27 et nous lirons à partir du verset 11 et nous parlerons de ce sujet. Jésus comparut devant le gouverneur qui l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'as-tu pas de combien de choses ils t'accusent? » Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur coutume de relâcher un prisonnier, celui qui demandait la foule. Il avait alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? » Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Il était assis sur le tribunal. Sa femme lui fit dire qu'il n'y a rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander pour Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Pensez-y. Pensez-y. » Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Que ferais-je donc de ce Jésus qu'on appelle Christ? » Et tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait? » Mais ils crièrent encore plus fort, « Crucifiez-le! » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Quel triste tableau. J'intitule mon sujet de ceci, si vous voulez l'inscrire ainsi, ou l'intituler comme ça, et peut-être que la bande pourrait s'intituler ainsi, « Que ferais-je de ce Jésus qu'on appelle Christ? » Et le sujet que je veux utiliser pour accompagner ce titre, je veux utiliser le sujet avec Jésus sur vos mains. Avec Jésus sur vos mains, que ferez-vous? Notre scène commence ce matin dans le prétoire où Pilate, le gouverneur, avait été appelé sur les lieux pour agir et rendre un jugement. Il était tôt le matin, un peu avant le lever du jour, il avait été dérangé dans son sommeil et il avait été appelé pour entendre la cause de cet homme. C'était au temps de la crucifixion de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il n'avait rien fait qu'il pouvait lui reprocher. Il avait répondu à toutes leurs questions. C'était simplement l'heure où il devait en être ainsi. Rien ne peut arriver sans qu'il y ait quelque chose derrière qui le dirige de cette façon. Il doit y avoir une raison pour tout ce qui arrive, parce que c'est motivé, bien sûr, par l'esprit qui se trouve dans les êtres humains, et ainsi de suite. Il y a un motif, le motif de la chose, et un objectif. Il doit y avoir une raison. Et ça, la raison pourquoi cela devait arriver à cet homme le plus important qui ait jamais vécu sur la terre, ou qui ne pourrait jamais vivre, la raison pourquoi c'est arrivé ici, c'est parce que le temps était venu pour cela. Vous voyez, il devait en être ainsi. Il n'y avait aucun moyen d'y échapper. Il fallait que ce soit à ce moment-là. Et Jésus était venu sur la terre exactement comme la parole de Dieu avait prédit qu'il viendrait. Il a fait exactement ce que la parole a dit qu'il ferait. Il a vécu la vie à la lettre et Dieu a fait connaître ou a manifesté la semence de ce temps-là. Maintenant, souvenez-vous, Dieu. La Bible commence dans la Genèse et va jusqu'à Apocalypse. Maintenant, voici la leçon que je veux que vous compreniez. Que, voyez, dans chaque génération, il est dit dans la Bible d'une certaine chose qui se passe dans chaque génération. Comme Daniel a vu interpréter le rêve de Nebuchadnezzar, comment les royaumes des gens des nations allaient entrer et ce qu'ils allaient subir et comment ils allaient sortir. Et chacun de ces peuples, de ces races, de ces nations, que la puissance des gens des nations qui contrôlent, ils ont contrôlé le monde et fait exactement ce que la vision disait qu'ils feraient. Lorsque Nebuchadnezzar, la tête d'or, a été pris, les Mèdes et les Perses sont entrés, et leur nature, selon la nature de la matière et selon ce que le prophète avait dit exactement. Nebuchadnezzar, la tête d'or, qui est la plus grande et la première du royaume, ensuite les Médès et les Perses, étaient l'argent, et puis jusqu'aux cuisses, qui étaient d'airain. Et chaque métal devient de plus en plus dur, l'or étant le plus mou, et ça se termine par le fer, qui est le plus dur de tous. C'est le fer. Maintenant, chacun de ces royaumes est venu exactement selon sa nature, comme le prophète l'avait dit qu'il ferait. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il semait une semence pour que les nations le voient. Et chaque fois que ce royaume prenait place, il devait faire selon ce que cette parole disait. Et puis le Messie devait entrer en scène. Et quand Christ est entré en scène, il a dû répondre à toutes ces paroles de Dieu qui devaient être accomplies, que le prophète avait prononcé ce qu'il allait faire. Moïse a dit, il sera un prophète comme moi. Et si vous saviez, nous avions le temps de le typifier et de montrer comment pendant cette période extraordinaire, quand Israël était en captivité par l'Égypte, Moïse est né un enfant étrange et particulier, et comment il a été suscité, a été élevé et caché parmi les gens, et comment il est devenu un conducteur, il est monté dans les montagnes et a obtenu la loi, puis est redescendu. Il n'était pas seulement un conducteur, mais il était aussi un sacrificateur, un roi et un gouverneur. Tout cela est comme ça typifie très exactement Christ. Et Moïse a dit, l'Éternel, votre Dieu, suscitera un prophète comme moi. Voyez? Bon, à la naissance de Christ, Israël était de nouveau captif de l'Empire romain. Et qu'était-il? Il est né un enfant particulier et étrange, la façon dont il a été élevé, comment il est monté dans les montagnes, il est descendu, il a dit, vous les avez entendus dire ceux d'autrefois, tu ne déroberas point, vous les avez entendus dire, tu ne commettras point l'adultère, mais moi je dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère, un législateur, voyez, et un roi, et un sacrificateur, un prophète, exactement comme lui. Alors, toutes ces choses devaient s'accomplir, et quand cet espace était là pour la vie du Messie, quand cela était parfaitement confirmé. Bon, c'est peut-être la dernière longue leçon que je vais enseigner pour un bon bout de temps. Je veux que vous soyez attentifs maintenant. Quand la parole a été prononcée pour cette certaine génération, il va y avoir quelqu'un qui va venir sur la scène pour accomplir cette parole. Parce que Dieu l'a prononcée. C'est une confirmation de la parole parlée. Et Jésus remplissait toutes les qualifications. Et était la parole confirmée comme étant Messie exactement. Il y a aussi des paroles mentionnées dans la Bible pour le dernier jour. Ces paroles doivent prendre vie. Et nous découvrons ici qu'au temps de notre Seigneur, l'Église l'avait déjà rejeté avant qu'il vienne dans le prétoire de Pilate. Il l'avait rejeté le jour même où son ministère avait commencé à prophétiser et à leur dire une vérité au sujet de la parole. Puis ils ne pouvaient pas le comprendre. Comment lui, qui est un homme, pouvait savoir ce qu'il y avait dans le cœur des gens? Ils étaient loin de se douter que la parole est Dieu. Et la parole, dit la Bible, discerne les pensées et les intentions du cœur. Et il voulait le traiter de mauvais esprit. Il a dit, « Je vous pardonne pour cela, mais quand le Saint-Esprit viendra pour faire la même chose, de dire une parole contre lui, ne sera jamais pardonné. » Et toutes ces choses qu'il a prophétisées qui doivent s'accomplir en ce jour-ci, quelque chose doit amener cela à la vie. Mais quand ce sera amené à la vie, ce sera tellement différent de ce que les gens pensent que seulement les élus vont le voir. Toujours seulement l'élu va le voir. C'est la chose qui va le voir, car il est élu et ordonné à le voir. C'est pourquoi il ne peut pas en être autrement. Jésus a dit, vous ne pouvez pas venir à moi. Nul ne peut venir sans que mon Père ne l'attire, et tous ceux qu'il m'a donnés viendront à moi. Voyez? Il n'y avait donc aucun moyen. Il a dit, vous avez des yeux, vous ne pouvez pas voir, des oreilles, vous ne pouvez pas entendre. Il a dit, eh bien, Isaïe a bien prophétisé sur vous. Voyez, la prophétie d'Isaïe se concrétise, se manifeste. N'oubliez pas cela, ici ou un écouteur de bande, que la parole de Dieu doit être manifestée. Dieu est obligé de veiller à ce qu'elle le fasse. De même que Jean-Baptiste avait été prédestiné à annoncer la venue de Christ, il fallait qu'un homme se lève pour prendre sa place. Cette place, cette parole doit s'accomplir. Alors Jésus est venu comme le Messie, oui, et a fait exactement ce que la parole de Dieu avait dit qu'il ferait. Et pourtant, les Juifs attendaient autre chose. Un roi qui vient avec une verge de fer à la main, ce qui était loin dans le futur, mais il a accompli chaque parole. Là-bas, un jour, à Capernaum, quand il a pris les Écritures, a lu, avez-vous remarqué, il n'a lu qu'une partie de cette Écriture, puis il a déposé le livre, et il a dit, aujourd'hui, ceci est accompli, alors qu'il allait prêcher l'année du Jubilé. Pourquoi n'en a-t-il pas lu le reste? Parce que ça se rapportait à son autre venue. Il n'avait pas besoin de savoir ça. C'est pour l'âge où il va venir. Mais l'âge dans lequel il était, c'est la raison pourquoi il pouvait dire, aujourd'hui, cette Écriture est accomplie sous vos yeux. Juste ici, vous l'avez. Voyez, pour publier la saison de grâce, pensez ceux qui ont le cœur brisé et guérir le malade. C'est pour ça qu'il est venu. Le reste de l'Écriture était pour rapporter le jugement sur la nation et ainsi de suite. Alors ça venait plus tard. Voyez, les païens devaient premièrement le rejeter. Maintenant, à la crucifixion, là où nous en sommes aujourd'hui sur le sujet de Jésus sur vos mains, la parole de Dieu avait été parfaitement confirmée. Elle avait été prouvée encore et encore qu'il était la réponse à la parole de Dieu. Alors que les scribes, voyez, Dieu l'avait déjà exposé, laissé le ministère l'étudier. Mais voyez-vous, il se fie à la parole de quelqu'un pour d'autres, pour cela, un certain groupe d'hommes. Ils sont si aveuglés à la vérité que quand la vérité est présentée, ils ne la reconnaissent pas. Mais voyez, Dieu est juste, il l'a écrit là-dedans, il l'a écrit ici même dans le livre, ce qui va se passer aujourd'hui. Alors cela va s'accomplir, mais ceux qui ne sont pas ordonnés à le voir ne la verront jamais, voyez. Ils l'ont tout embrouillé, et c'est ainsi qu'ils l'ont eu à l'époque, ils n'ont jamais su que c'était lui. Et par les signes qui indiquaient qu'il était le messager de l'heure, personne ne pouvait le nier. Son prophète en a parlé. Il a dit, moi, je dois diminuer, mais lui, il va croître. Je ne suis pas digne de délasser ses chaussures, mais il se tient parmi vous maintenant, a dit Jean. Il va venir, et la hache est posée à la racine de l'arbre, et les arbres qui ne portent pas de fruits seront retirés de la forêt que de la vigne ou du verger. Ils n'y seront plus. Maintenant, nous constatons que ces choses sont arrivées exactement comme il l'a dit. Il pouvait discerner les pensées de leur cœur. Il était un prophète. Tout ce qu'il a dit ou prédit s'est passé exactement comme il l'avait dit. Je monte à Jérusalem là-bas, je serai livré entre les mains d'hommes pécheurs. Ils le maltraiteront, il sera crucifié, le troisième jour, il ressuscitera. Mais il a dit, veillez à ne dire cela à personne. Et il empêchait leurs yeux de le voir pour qu'ils ne le comprennent pas avant que cela soit accompli. Voyez, bien des fois, il laisse être aveuglé jusqu'au moment où nous en avons besoin. Il nous laisse être aveuglé aux choses que nous voyons aujourd'hui, car ceci est l'heure où nous en avons besoin pour confirmer le jour où nous vivons. Voyez, nos pères ne connaissaient pas ces choses. La Bible a dit qu'ils ne les connaîtraient pas. Ils les avaient cachées et dans les derniers jours, elles seraient révélées au Fils de Dieu ou rendues, elles seraient manifestées pour montrer sa gloire et ses louanges sur la terre. Et tout ce que Daniel a dit au sujet des derniers jours et comment est-ce que ceux qui connaissaient leur Dieu feront des exploits, et il y a tant d'écritures qui se rattachent à ce jour dans lequel nous vivons, comment ces temps mauvais et trompeurs seraient sur la terre, et c'est exactement ce que nous avons maintenant, qu'ils l'accomplissent. Ils avaient eu la chance de le voir, mais ils ont rejeté leur merci même. Et aujourd'hui, c'est la même chose, exactement la même chose. L'occasion nous est donnée parce que Dieu ne peut pas juger sans avoir d'abord être justifié pour son jugement. Maintenant, si vous disiez à une certaine personne qui descend la rue à toute vitesse que vous les arrêtiez, il dirait, il y a un trou sur la route là-bas, si vous continuez à cette vitesse, vous allez vous tuer. Et qu'il dirait, sautige, c'est ce que j'ai fait. Alors, vous voyez, leur sang ne peut être pas être sur vous parce que vous les avez bien avertis. Eh bien, Dieu fait la même chose par sa parole. Il avertit complètement les gens du jugement à venir et montre ses signes et ses prodiges qui sont prédits dans la Bible pour cet âge et il leur montre et les gens passent par-dessus. Ce n'est pas facile pour une personne d'aller en enfer. Un homme se bat pour aller en enfer. Le premier mensonge que vous avez dit, que vous saviez que c'était mal. La première cigarette que vous avez fumée, vous saviez que c'était mal. Le premier mal que vous avez fait, vous saviez que c'était mal. Mais dans votre conscience, ça vous disait que c'était mal, mais vous continuez à passer au feu rouge, à franchir les barricades, vous êtes conscient. Vous voulez le faire de toute façon pour montrer que vous êtes quelqu'un d'important, voyez. Mais souvenez-vous, vous vous battez pour aller en enfer. Ce n'est pas facile d'aller en enfer. Vous devez rejeter la vérité. Avant d'avoir l'accident, il vous faut passer au feu rouge. Avant d'avoir l'accident, vous devez, là, sur la route, vous avez des avertissements qui ont été placés, mais vous avez votre façon de faire. L'homme est comme ça aujourd'hui. Il en sait plus que n'importe qui d'autre et il ne portera pas attention aux signes et aux avertissements du jugement à venir et de ceux qui rejettent Christ. Maintenant, remarquez ce qu'ils avaient accepté à la place de ce Christ. Pensez maintenant à l'Église de ce jour-là, à leur aveuglement. Ils avaient rejeté un meurtrier public, Barabbas. Un homme dont on avait prouvé qu'il était un meurtrier et qui attendait vraiment son jugement. Il avait été prouvé que c'était un meurtrier et qu'il était un homme méchant. Et juste parce que la vie de Jésus, ce qu'il les avait mis au défi. Il a dit, qui d'entre vous peut m'accuser de péché? Le péché est l'incrédulité. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Si je ne vous ai pas dit la vérité de l'Écriture, et l'Écriture a parlé de moi elle-même, sondez les Écritures, qu'il a dit, car vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui témoignent de moi en cet âge. Mais ils ont dit, il se fait Dieu, il se fait important, il n'a rien fait. Dieu l'a fait, Dieu. Il était Dieu. Il était l'accomplissement de l'Écriture. Il ne s'est jamais fait quoi que ce soit. Dieu a fait de lui ce qu'il était. Et là, c'est parce que c'était l'heure où la parole devait s'accomplir. Alors, mais ils ne pouvaient pas la voir parce que c'était contre leur idée dénominationnelle qui s'était élaborée au sujet de Christ. Et c'est trop aveuglé à la parole. Bon, et en plus, se débarrasser de ce type, il leur fallait accepter un meurtrier, une menace publique en plus. C'était une entrave pour la société, une entrave pour eux, un meurtrier. Ils devaient accepter cela parce que pour rejeter Christ, et avant qu'un homme ou une femme puisse accepter le mal, ils doivent rejeter le bien. Il y a quelque chose dans la nature, elle a une loi, qu'il faut rejeter la bonne chose avant de pouvoir accepter la mauvaise. Comme je viens de le citer, pour ne pas mentir, vous avez dit un mensonge contre votre meilleur jugement. Vous avez menti contre votre conscience. Vous avez menti sur ce que votre mère ou vos parents vous ont enseigné à faire, ou la nature elle-même enseigne que vous ne devriez pas le faire. Donc, c'est pourquoi vous, pour rejeter la vérité, vous devez accepter un mensonge et vous devez rejeter la vérité avant de pouvoir accepter le mensonge, voyez? C'est ainsi que ces hommes avaient agi. Ils avaient rejeté la vérité. Il était la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et a été manifestée devant nous. Dans 1 Timothée 3:16, et sans contredit, le mystère de la piété est grand, car Dieu a été manifesté en chair, touché de nos mains. Dieu, Jéhovah, c'est stupéfiant. C'est surprenant de penser que le Dieu qui a mis le système solaire dans l'espace, qui a fait des étoiles 1000 fois plus grosses que ce monde, et si l'une de ces étoiles se dirigeait sur la Terre à 10 000 milles à l'heure, eh bien, il lui faudrait 100 millions d'années pour arriver ici. C'est tellement loin. Et deux petites étoiles là paraissent être à un pouce l'une de l'autre. Vues d'ici, elles sont plus éloignées que nous d'elles. Et pourtant, il n'y en a pas une seule qui ne reste pas à sa place. Et cette grande galaxie, oh là là, l'immensité et la vastitude de Dieu qui a pu faire ces choses, chacune doit tenir l'autre. C'est pour ça que ça reste comme ça. Si elles sortaient de leur place, tout le système s'effondrerait. C'est ce qui s'est passé en Éden. Quand Ève est sortie de sa place avec les commandements de Dieu, toute la race est tombée. C'est ça le problème aujourd'hui. Nous ne devrions pas nous séparer dans des organisations et des dénominations et ainsi de suite. Nous devrions être des fils et des filles de Dieu qui tiennent ensemble la grande galaxie du monde. New York, la semaine dernière, j'écoutais un message cité ou dit par Einstein, le grand scientifique, celui qui est appelé le cerveau de l'époque. Et j'ai entendu ça, puis je suis allé écouter parler Norman Vincent Peale sur sa psychologie de comment les gens devraient agir ou marcher et se projeter dans la psychologie. Puis sur Einstein, il parlait d'une galaxie qui se trouvait hors du système là, hors des étoiles. Et si quelqu'un pouvait voyager à la vitesse, je crois qu'il a dit de la lumière. Maintenant, je pense que c'est 186 000 milles par seconde, la vitesse à laquelle la lumière voyage. Et maintenant, calculez ça pour 5 minutes, combien de millions et de milliards de kilomètres vous seriez. Et il vous faudrait un 120 millions d'années-lumière pour atteindre cette galaxie. Et puis 120 ou 150 millions d'années, 150 millions pour y aller, 150 millions pour revenir. Et ils ont frappé quelque chose qui les a troublés. Et ils, après y être allés et être revenus, il vous faudra en fait 3 millions d'années pour faire le voyage, 300 millions d'années pour faire le voyage. Et quand vous revenez sur la Terre, en fait, vous n'étiez parti que 50 ans. Vous entrez dans l'éternité. Il n'y a pas de fin à cela. Et de penser que le Dieu qui a fait tout cela, il l'a mis en place. Il en a parlé, il est descendu, il s'est fait chair parmi nous pour nous racheter. Et il nous a ainsi honorés de son auguste présence qu'il se tienne ici sur cette terre pécheresse dans les derniers jours et prouve la véracité de sa parole parce qu'il est obligé à cette parole. Amen. La souveraineté et la justice de celui qui tient ces choses dans sa main. Remarquez, les nations, là, l'Église doit d'abord refuser sa parole. Puis après que l'Église l'ait refusée et l'ait appelée un Belzébul ou un mauvais esprit, alors elle a été amenée devant le gouvernement, de sorte que la race entière a dû être condamnée. Maintenant, nous voyons Jésus ce matin devant un gouverneur, Pilate, un Romain, pour être jugé. Et nous voyons que l'Église l'a rejeté premièrement parce qu'ils n'ont pas cru son message, parce qu'ils ne connaissaient pas la parole. Jésus leur a dit, si vous aviez entendu Moïse, vous auriez cru en ma parole, car c'est lui qui a parlé de moi. Vous voyez? Il y a la parole que le prophète, qui le Seigneur vient vers le prophète, et le prophète prononce la parole pour l'heure à venir. Et ici, elle était identifiée. Et il a dit, vous dites que vous connaissez Moïse, et qu'il est votre guide. Vous ne connaissez ni Moïse, ni sa parole. En d'autres termes, il a dit, je suis la parole. Je suis la parole identifiée dont Moïse a parlé, et vous me condamnez. Voyez, pour leur tradition, voyez, l'Église l'a condamné. Or, nous le voyons maintenant devant Pilate, et aussi pleinement approuvé et identifié pour l'époque ou l'Église par le messager de l'époque. Il leur était donné la chance de voir et de croire, mais ils l'ont rejeté. Pourquoi l'ont-ils rejeté? Beaucoup d'entre eux voulaient croire cela, mais leur tradition, pas les gens, mais leur tradition. Or, vous voyez, comme Nicodème est venu de nuit et a dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant venu de Dieu. Nous savons que tu viens de Dieu, car aucun homme ne peut faire ces choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Nous, qui est nous, dont il parle, l'Église, les pharisiens, les conducteurs de ce jour-là, nous savons, nous sommes convaincus que tu es cette personne. Pourquoi alors ne peut-il pas le faire? À cause de leur système. Je veux que ça pénètre profondément, parce que c'est ce à quoi je veux en venir, voyez? Le système auquel il s'était déjà joint était celui dont il ne pouvait pas se défaire, bien qu'ils avaient vu que c'était le Messie. Le système avec lequel il était connecté ne leur permettait pas de l'accepter. Vous comprenez? Maintenant, je veux demander dans cet auditoire ici, combien savent de quoi je parle? Levez la main. Très bien. Maintenant, un système. Ils y croyaient et ils savaient que ça l'était. Comme j'aimerais dire la même chose aujourd'hui. Nous voyons ce qui est censé être ici aujourd'hui. Nous le voyons, mais le système ne les laisse pas l'accepter. Ils sont tellement endoctrinés par le système. Voyez, ce n'est pas la personne, c'est le système. Tout comme j'ai parlé du président qui vient d'être assassiné, ce n'est pas l'homme. Pourtant que je sache, c'est un homme bien, qui n'a jamais rien fait de mal à ma connaissance. Mais c'est le système. Ce ne sont pas les gens. C'est le système. Ce n'étaient pas les Juifs, c'était leur système. Le système l'a condamné parce qu'il ne tolérait pas leur système, vous comprenez? Maintenant, la même chose se produit en ce moment. Ils ont choisi cet ennemi public, un meurtrier. Mais l'aboutissement maintenant implique le gouvernement. Il faut donc que le gouvernement prononce cette sentence parce que pour prendre une vie, ça doit passer devant le gouvernement. Ils n'avaient pas le droit de le faire cela parce qu'ils étaient sous la domination de Rome et ils ne pouvaient pas prendre une vie, peu importe combien leur Église disait « nous devons le faire ». Eh bien, ils ne pouvaient pas le faire sans premièrement que Rome leur accorde de la sanction et ainsi il fallait que ce soit amené devant le gouvernement. Or, le gouvernement était impliqué dans cette affaire. Si ce n'est pas une représentation d'aujourd'hui, je ne vois pas quoi. Voyez? Exactement. L'Église le refuse. Maintenant, c'est au tour du gouvernement d'être impliqué. Le temps était venu où la nation tout entière devait en venir. L'aboutissement était venu. L'épreuve de force était proche. Toute la nation l'avait rejetée et la colère de Dieu allait s'abattre sur eux. Et avant même. Même l'Église l'avait rejeté, ce qui allait amener la colère sur l'Église. Mais maintenant, la nation l'a rejeté pour amener la colère sur tous. Et aujourd'hui, le monde l'a rejeté pour amener le jugement au monde entier. Toutes les nations doivent être jugées. Nous savons que cela est arrivé du temps de Titus, le grand général romain. Il a assiégé Jérusalem et puis finalement, il mangeait les enfants les uns des autres, il mangeait l'écorce des arbres et l'herbe sur le sol. Et puis Titus est entré, il a détruit les murs et brûlé la ville et le sang coulait dans les rues comme ça. Il les avait assassinés. Et il le fallait avant qu'un Dieu juste puisse laisser un peuple qui l'avait choisi subir une telle chose, il doit y avoir une raison valable. Il est juste. Ses lois exigent une justice. Et une loi sans sanction n'est pas une loi. Si, disons, j'avais fait une loi ici en ville, c'est une interdiction que de brûler un feu rouge et qu'il n'y ait pas de sanction liée à cela. Vous continuerez de brûler les feux rouges, mais il doit y avoir une pénalité. Et le châtiment de la loi de Dieu de rejeter son programme, c'est la mort. Il devait y avoir une mort pour que ce soit payé. Nous avons un procès semblable ce matin. Dans le monde entier, un procès. Toutes les dénominations ont refusé la parole. Je sais que ça a l'air très dur. Et je veux que les ministres qui nous écoutent ici présents, ou si ceux qui écoutent la bande, essayent de le comprendre maintenant. J'essaie de le dire clairement. Maintenant, je tiens mon point, ou je vais faire valoir mon point ici, et je dis que nous nous trouvons aujourd'hui dans une autre salle de jugement de Pilate. Vous dites, si j'avais été là, j'aurais parlé pour Jésus-Christ. Eh bien, que faites-vous à ce sujet maintenant? C'est la chose, voyez? Peu importe à quel point l'Église l'a rejeté, je serai resté à ses côtés. Vous en avez l'occasion. Ah oui? Vous voyez, ils l'ont rejeté. Maintenant, il est jugé aujourd'hui, ou vient d'être jugé, ou est en train d'être jugé pour un système mondial qui se forme. qu'on appelle le Conseil des Églises, pour former le Conseil mondial des Églises. Maintenant, qu'ont-ils fait? Ils ont voté qu'ils allaient absolument s'unir et avoir un Conseil d'Église. Et dans ce Conseil des Églises, toutes les Églises doivent faire partie de ce Conseil. Ou sinon, vous n'êtes même plus autorisé à prêcher. Vous n'êtes même plus autorisé à prier pour le malade. Ils ne peuvent utiliser votre Église pour tout ce qu'ils veulent faire. S'ils veulent y servir des boîtes, des munitions ou tout ce qu'ils veulent, vous n'avez aucun contrôle du tout. Soit que vous fassiez partie du Conseil des Églises, vous n'avez plus le droit du tout. Et c'est le système qui est en train de se former ici aux États-Unis qui accomplit l'Écriture à la lettre. Cela accomplit ce que le Seigneur m'avait dit en 1933, voyez. Oui. Et nous en sommes à cette heure ce matin. Et Jésus-Christ, la parole, est en jugement aujourd'hui, comme au jour de la crucifixion. Et il est maintenant sur nos mains. Il est entre les mains du monde. La parole a été clairement identifiée dans le monde entier, voyez. Oui. Il se tient là, cité à procès. Toutes les dénominations l'ont rejeté. Et maintenant, il est jugé comme dans le Conseil des Églises et ils le rejettent de nouveau et choisissent plutôt comme ils l'ont fait alors. Voyez-vous, la nature dans l'histoire se répète parce que la nature demeure la même. Les arbres continuent de pousser, et les légumes poussent, et les fleurs, et le monde tourne comme il l'a toujours fait. C'est la nature. Et la nature de chaque âge produit à nouveau et reproduit encore le reflet de ce que la nature était avant eux. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons à nouveau à cette même place. Or, Jésus était la parole. Jean, au chapitre 1, nous croyons tous cela. Il était la parole, et parce qu'il était la parole, s'il vous plaît, comprenez, il était la parole. Et il devait être contre le système. Et ils ne l'ont pas rejeté à cause de ses miracles. Ce n'est pas ça. Ils ont dit, il a dit, qui peut m'accuser et quel mal a-t-il fait, a dit la petite dame, quel mal a-t-il fait si ce n'est de guérir le malade. Et il a dit, ce n'est pas pour ces choses que nous le condamnons, voyez, nous le condamnons parce que lui, étant un homme, se fait Dieu. Et leur propre écriture disait qu'il serait Dieu. En Ésaïe, le grand prophète qui a écrit les 66 livres d'Ésaïe, qui commence par au début comme au commencement, et au milieu du livre, on voit Jean le Baptiste, et se termine par le règne du millénium. Il y a 66 livres dans la Bible, comme il y a 66 chapitres dans Ésaïe. C'est remarquable que ce soit comme ça. Dans Ésaïe 9:6, il a dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et on l'appellera. » Conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel, merveilleux. Et les traditions aveugles où le système ne pouvait pas voir que c'était Dieu par leur propre prophète à qui la parole était venue, qui disait qu'il serait Dieu. Les systèmes aveugles. Donc, ils avaient rejeté la parole et désiraient un meurtrier à la place Barabbas. Et aujourd'hui, la parole qui est clairement pour ce jour a été confirmée. Elle est devenue une réalité. Il a été démontré que c'est la vérité. Et au dernier jour, comme Jésus l'a dit, ce qui arriva du temps de Sodome et ainsi de suite arrivera ainsi à la venue du Fils de l'homme. Le Dieu même, lui-même, qui était la parole, a prédit le temps de la fin et ce qui arriverait, que la lumière brillerait au temps du soir et commence Malachi 4, il enverrait ces choses et les prouverait. Et cela nous amène au moment de décision et les églises l'ont rejeté. Qu'est-ce que les églises ont désiré? Un meurtrier de la parole. Celui qui choisit un système, si le système est contraire à la parole, alors c'est un meurtrier de la parole. Et ils ont déchiré une tradition de dénomination à la place de la vraie parole qui se manifeste et prouve que c'est Dieu parmi le peuple, par la science, par des photos, une lumière, le même ange du Seigneur, la colonne de feu. La même qui vivait sur terre dans le corps de Jésus-Christ est venue sous Saint-Jean dans les derniers jours et la science l'a prise en photo. L'Église a vu ses œuvres. Elle est clairement identifiée par des enregistrements et tout le reste encore et encore partout dans le monde et apportée personnellement. Et pourtant, dans tout cela, leur système désire un conseil des Églises pour condamner la vérité. Ils désirent un meurtrier qui fermerait ou arrêterait ou exclurait. Et c'est ce qui va arriver. Ils vont arrêter une telle chose. Et le conseil va devoir le faire. Voilà la marque de la bête. L'Antichrist contre la parole, qui est Christ, mais pas leur référence. Ils pensent que c'est la tradition. Ils pensent que leurs traditions sont de Dieu. Mais elle ne prendra pas position avec la parole et Dieu ne la confirmera pas comme étant juste. Jésus a pris position avec la parole, mais pas avec leurs conseils, mais avec la parole. Et la parole a prouvé qu'il était Dieu. Et elle prouve aujourd'hui que c'est Dieu parce qu'elle vit la même vie, elle fait la même chose parmi nous qu'elle a faite à l'époque et a prédit. Alors que font-ils? Ils acceptent quelque chose qu'ils ont déjà accepté, le système même qui va crucifier cela. Et la crucifixion de la liberté interdénominationnelle est proche. C'est vrai. Maintenant, ça ne va pas à l'encontre des Écritures. C'est conforme aux Écritures. Ils ont formé une image à la bête. Ils unissent les dénominations du monde en une seule protestante, formant la marque de la bête, l'image de la bête, conformément à Apocalypse 13:8, et ils firent une image à la bête. La bête est Rome. Non, ça, nous le savons tous. Mais ça a toujours été Rome, tout. Comment est-ce que ça pourrait être la Russie quand la Bible dit Rome? Vous voyez? Les gens ont une fausse impression, vous voyez? Comment est-ce que ça pourrait être autre chose alors qu'il est prédit que ça doit venir de Rome? Retournez dans Daniel, le fer et l'argile dans les pieds. Le fer n'a jamais cessé à partir des genoux jusqu'à la fin. Et tout le monde sait que la Russie n'était même pas connue à l'époque. C'était Rome. Le dragon rouge était Rome. C'est toujours Rome. Et ce fer n'a jamais changé pour autre chose, de Rome à autre chose. C'est demeuré Rome, et la bête est Rome. Et Rome avait un système religieux dont la tête mortelle, ou la blessure mortelle l'avait tué à la tête, mais elle a été ramenée à la vie. De la Rome païenne à la Rome papale. Et maintenant, ils doivent en faire une image à partir de la bête qui monte à Apocalypse 13. L'avez-vous déjà remarqué? Cette nation est le nombre 13 et apparaît. Je ne dis pas que c'est étrange, cependant, que ça arrive mathématiquement, juste exactement dans l'ordre des Écritures. On la trouve dans le chapitre 13 de l'Apocalypse. Cette nation, toutes les autres bêtes sortaient de l'eau, c'est-à-dire de la profondeur et d'une multitude de gens, dit la Bible. Mais cette petite bête est sortie de la terre. Il n'y avait pas de gens. Et pourtant, ils étaient un agneau. La liberté de religion, puis il s'est mis à parler comme un dragon, il s'est uni avec la puissance, il a fait tout ce que le dragon avait fait avant lui, exactement. Alors voilà, il faut qu'il en soit ainsi, il n'y a pas moyen de le contourner, et nous voici aujourd'hui en train de former un système. Un système. Nous ne pouvons pas attendre que nous avons essayé de faire en sorte que tout le monde devienne un luthérien. Nous n'avons pas pu le faire. Nous avons essayé qu'ils deviennent tous baptistes. Nous n'avons pas pu le faire. Qu'ils deviennent tous méthodistes ou tous pentecôtistes. Ils ne pouvaient pas le faire. Donc, pour arriver, le temps est si court. Ils ont formé un conseil, une tête, une image à la bête. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce que c'est? La crucifixion de la parole. Encore une fois, elle est proche. Elle passe en jugement et va bientôt avoir la parole. Remarquez. La parole manifestée de la dénomination, elle se manifeste. La différence entre la parole et la dénomination, qu'est-ce que c'est? Quel est ce système? C'est un satellite de Rome. Est-ce que la Bible a dit que ce sera ça? Oui, monsieur. Apocalypse 17, ils ont vu Rome s'élever en un système ecclésiastique d'une femme. Une femme, l'Église, est toujours représentée par une femme, parce que l'épouse de Christ est une femme. C'est Ève qui est tombée. C'est elle qui doit être rachetée. Et l'Église est quoi? C'est une femme qui est rachetée. Et cette femme est assise sur la bête qui a sept têtes. Et nous savons au sujet de ces sept collines, et ainsi de suite, comme la Bible l'a dit, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de risque d'erreur, voyez? Et remarquez, là, nous voyons qu'elle était une mère de prostituée.
Voyez?
Et la mère et la fille s'unissent à nouveau dans l'amitié, alors qu'une fois la fille s'est enfuie de sa mère pour essayer de vivre décemment, car sa mère était si dégradée, si méchante que la fille avait quitté la maison. Ah oui, mais maintenant, comme elle commence à prendre un peu d'âge, elle fait tant de vilaines choses, elle voit sa mère et elle pense que sa mère avait raison, alors elle forme un système bien à elle. Vous voyez, exactement. Elle unit la dénomination, le protestantisme, ce qui accomplit exactement ce que l'Écriture dit dans Apocalypse 17, tous ceux dont le nom n'était pas écrit dans le livre de vie de l'agneau, lui appartenait, l'un ou l'autre, soit la bête ou l'image de la bête, la Bible le dit. Et Jésus a parlé de ceci, non pas comme du communisme, mais dans Matthieu, au chapitre 24, commençant par le verset 21 à 26, il a prédit que l'esprit dans ce système serait tellement semblable à la chose véritable qu'il séduirait même les élus si c'était possible. Les élus dont les noms ont été mis dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde, et franchement, cela les a tellement mis au pied du mur, au point qu'il a dit que si les jours n'étaient pas abrégés, pour eux, aucune chair ne serait sauvée sur la terre. Et nous n'avons que, on est en 64, n'est-ce pas? Et je pense qu'ils prétendent qu'on est environ 17 ans plus tard, d'après le calendrier, et nous sommes en 64. 1964, ce qui ferait qu'est-ce que c'est? Il reste 36 ans avant que le 21e siècle. Et tous les 2000 ans, le monde est arrivé à la fin de son système mondial, de son système religieux, à la fin de tout système. Et Dieu devait entrer en scène. Il a fait du temps de Noé, le premier 2000 ans, le deuxième 2000 ans. Le système est revenu à l'endroit auquel notre sujet fait référence ce matin. Il a envoyé de nouveau sa parole. Il a envoyé sa parole par un prophète du temps de Noé, le prophète de Noé. Et les gens l'ont rejeté pour leur système. Il a envoyé de nouveau sa parole du temps de Jésus. La parole manifestée dans la plénitude. Les gens l'ont rejeté. Et maintenant, en 1964, il nous reste 36 ans avant la prochaine 2000 ans, et la parole a été apportée et le système l'a rejeté. Combien sommes-nous proches? Mais peut-être plus tard que nous le pensons, voyez, ça pourrait se produire à tout moment. Ça peut être déjà arrivé, de ce que nous savons. Comme je l'ai dit dimanche dernier, le dernier nom était peut-être dans ce livre. Quand ça va être le cas, il n'y en aura plus qui vont entrer. Le monde va continuer comme avant, mais l'Église est scellée. Remarquez maintenant, alors que nous continuons ici, leur nom, il ne séduira pas ceux dont les noms sont écrits dedans. Qu'est-ce que c'est? Il faut que ce soit un système, voyez? Et pensez-y, le fait de faire partie de cette dénomination dans ce système, que faites-vous alors? Où en êtes-vous? Vous êtes scellé, voyez, en dehors de la parole, à un système meurtrier qui retranche. Qui a une forme de piété, mais reniant ce qui en fait la force. C'est la marque de la bête, exactement, voyez? C'est la bête là-bas, ce qu'il a fait, et ici, il y a l'image, la même chose. Et la bête était si grande qu'il a formé cette grande Église universelle à Nicée. Vous voyez qu'ils ont fait venir tout le monde entier dans ce seul système. Ils pensaient que c'était si grand, personne ne pouvait leur faire la guerre, dit la Bible, au point qu'ils ont fait une image à la bête et amené tous les protestants dans le Conseil des Églises qui a formé un système où vous n'étiez même pas considéré comme un chrétien ou quoi que ce soit d'autre, à moins d'appartenir à ce système. Voilà la différence entre la marque de la bête et le scellement de Dieu. Dieu scelle par sa parole. Vous croyez que la parole l'est. Maintenant, vous dites, est-ce vrai, frère Branham? Oui, monsieur. Bon, je sais que vous y croyez à l'observance du sabbat ou les adventistes du septième jour. Vous dites l'observance du jour du sabbat, mais ce n'est pas ça. Je ne veux pas être désagréable avec vous, mais ce n'est absolument pas scriptural. Éphésiens 4:30 dit, ne trespassez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Vous voyez? Bon, le Saint-Esprit a la parole. Dieu n'est pas trois, et il est le même Dieu en trois dispensations, trois fonctions. Dieu le Père avec la loi, Dieu le Fils dans la grâce, et Dieu le Saint-Esprit, comme vous l'appelez, le même Dieu dans la dispensation du Saint-Esprit. Dieu le Père était la parole, Dieu le Fils était la parole, Dieu le Saint-Esprit est la parole. Vous voyez, c'est simplement trois fonctions. Et le Saint-Esprit vous scelle, vous êtes donc scellé par la parole. Maintenant, vous dites, eh bien, je suis scellé par... Eh bien, alors, cela s'identifie. Voyez, ça le prouve. Vous ne pouvez pas faire partie d'un système et être scellé par le système et la parole, voyez, parce qu'ils sont contraires l'un à l'autre. Ce n'est pas possible. Très bien. Maintenant, nous voyons que la mécanique de la grosse machine, c'est-à-dire la machine, elle a une automobile, elle a des pistons, des supers, un carburateur, et ainsi de suite. C'est la mécanique. J'aimerais dire quelque chose à l'Église, juste ici, qui me vient à la mémoire. Voyez, c'est ce qui est... Je crois que nous sommes si près de la fin. Je vais dire quelque chose maintenant. Voyez, les mécaniciens, il y a tellement de gens qui essaient d'expliquer la mécanique, alors que vous ne la connaissez pas. Voyez, la seule chose que vous savez, vous devriez le savoir, la mécanique est connue. Maintenant, ici Moïse, et si quelqu'un avait dit, Noé, je veux que tu m'expliques la mécanique de comment l'arche fait pour flotter, comment ça? Il n'aurait pas pu le faire. Et vous n'avez pas besoin de connaître la mécanique, c'est la dynamique, vous voyez, la dynamique, c'est ce que vous voulez savoir, comment, si bien quelqu'un venait en Israël et disait, hey, Moïse, je veux comprendre comment as-tu pu créer des animaux avec ta propre parole, il a dit, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu, il m'a dit de le faire, vous voyez, explique-moi comment tu as fait venir des mouches sur la terre, alors qu'il n'y en avait aucune, pas tant de mouches sur la terre, vous voyez. Moïse ne pouvait pas l'expliquer lui-même. Il n'avait pas à le faire. Comment as-tu fait venir un vent d'est pour souffler une ouverture à travers la mer Rouge et nous t'avons tous suivi à pied sec? Expliquez-moi la mécanique de cela. Quel était le système que tu as utilisé, Moïse? Comment? Dis-moi les recherches scientifiques qu'à la tombe tu as mis en mouvement, voyez? Il ne le savait pas. Eh bien, il ne connaissait pas la mécanique. Il connaissait seulement la dynamique. Et c'est comme ça. Et je ne peux pas vous dire comment je vis. Je ne peux pas vous dire comment vous vivez, mais vous vivez. Je ne peux pas dire comment votre corps, votre nourriture entre les produits du sang et prend la force de cette nourriture et entre dans cette troisième paroi de la voie intestinale et la transforme en une vie sanguine et la renvoie à travers vous. Je ne peux pas l'expliquer, mais ça le fait. Voyez, ça le fait. Je ne peux pas l'expliquer, je n'en connais pas la mécanique, c'est la dynamique. Bon, Moïse connaissait peut-être la mécanique, mais ce n'était pas personne d'autre que Moïse de la comprendre. Il savait que ça marchait et c'était suffisant. Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas être satisfait de cette manière aujourd'hui. Voyez, tout le monde ne pouvait pas être un Moïse. Il n'y avait qu'un seul Moïse. Ils savaient juste que c'était Dieu. Ils ont vu que c'était de Dieu. Ils ont suivi et allaient bien jusqu'à ce qu'ils commencent à leur remettre en question qu'ils veulent trouver quelqu'un d'autre pour faire la même chose. Corée, Dathan. Et quand ils ont trouvé quelqu'un pour amener des imitations charnelles, finalement, Dieu a dit, « Sépare-toi, n'entre pas dans ce système organisé. » Voyez, sors de là, je vais l'engloutir. Et il a ouvert la terre et l'engloutit, voyez. Vous ne connaissez pas, vous n'avez pas besoin de connaître la mécanique, il suffit de connaître la dynamique, la chose qui l'anime, qui la rend vraie. Et voyez, si elle atteint la cible que la Bible a promis, qu'elle atteindra ce jour-ci. Voyez, c'est encore la parole, de retour à la parole. Maintenant, la grande machine est en train de se mettre en place et est prête à agir. La mécanique est déjà là. Ils ont déjà le système mécanique d'une organisation qui va apporter sur la Terre une paix, qu'ils disent. Ils ont comme les Nations Unies. Les nations sont unies. C'est un temps d'union. Je viens de prêcher là-dessus récemment. Ils s'unissent pour produire quoi? Une paix mondiale. C'est ce qu'ils ont fait à la Société des Nations. Ils l'ont toujours fait et ça ne marche jamais. Ça ne peut pas marcher. L'ONU n'est rien d'autre qu'un gros ballon en caoutchouc qui est porté par le vent de doctrine de chaque nation. Il va éclater et exploser à la moindre chose. Ça ne peut pas marcher. pas plus que le Conseil des Églises. C'est une organisation par l'homme, contraire au système, ou avec leur système, contraire à la parole de Dieu. Ça ne peut pas fonctionner. Comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Ce n'est pas possible. Et comment l'Église chrétienne va devoir? Les pentecôtistes, les assemblées de Dieu et les autres grandes églises du royaume pentecôtiste et les gens du plein évangile, comment peuvent-ils renoncer à leurs enseignements évangéliques, les principes même sur lesquels ils se sont tenus, alors qu'ils ont été suscités pour sortir de ces organisations et de les condamner? Ils doivent renoncer à leur doctrine évangélique pour marcher avec des hommes qui ne sont pas d'accord sur les principes de la Bible et la guérison divine et la puissance de Dieu et Jésus-Christ. Comment deux peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Voilà, c'est l'heure où nous sommes arrivés, et c'est la grande machine qui est installée. Maintenant, ils ont la mécanique. La seule chose qu'ils ont besoin d'avoir, c'est Satan là-dedans avec la dynamite pour forcer le marquage de la bête. Quand elle va être forcée, c'est là que la dynamique va agir. La mécanique est là et ils ont déjà. Permettez-moi de dire quelque chose aussi. Ce temps d'union, de voir les Églises s'unir, les nations s'unir, c'est aussi un temps d'union pour Dieu et son épouse. Et je le dis avec révérence et respect. Je crois que l'épouse de Christ est appelée. Je crois qu'elle est scellée dans le royaume de Dieu. Je crois que la mécanique est là et ils attendent la dynamique qui va l'enlever de la terre et dans la gloire, dans l'enlèvement. Je le crois de tout mon cœur. Oui, monsieur, nous ne savons pas comment il va le faire, mais il va le faire. Il est la dynamique. Nous devenons simplement membres de la machine, de son corps. On se forme à son image et nous le voyons s'unir avec nous par ses œuvres, avec ses dons d'amour, comme nous les remet juste avant le souper des noces. Et nous attendons cela. Leurs grandes églises doivent s'unir. La dynamique de cette église sera un remplissage du Saint-Esprit dans lequel nous œuvrons dans une petite mesure pendant que la pierre fêtière descend pour s'unir avec le corps. Mais quand cette tête et ce corps s'unissent, la pleine puissance du Saint-Esprit va l'élever exactement comme cela. Même les morts qui sont morts en Christ depuis des centaines d'années vont se lever dans la beauté de sa sainteté et vont s'envoler vers le ciel. La dynamique est le Saint-Esprit. Et maintenant, la dynamique de ce grand régime qu'ils ont bâti, cette grande machine va être en marche un jour au Conseil uni du Conseil mondial des Églises qui va aussi produire une contrainte. Mais souvenez-vous, vous dites quand ça va arriver, ce sera trop tard pour vous, alors vous allez être déjà dedans. Que vous le vouliez ou non, vous êtes déjà, voyez, remarquez, vous avez déjà cet esprit sur vous. Au jour où le vent de l'esprit va souffler de l'est, du nord, de l'ouest et du sud, persuadant les gens de sortir de là et le montrant aux gens. C'est pour ça que j'ai été si opposé à ce système. J'ai vu qu'il y avait quelque chose là, des ténèbres. Quand j'ai vu ces femmes qui portaient ce truc sur leur visage, je vous l'ai dit dimanche dernier, je savais que quelque chose allait arriver. Pourquoi ai-je toujours été opposé à ces choses? Je ne le savais pas. Je le sais maintenant. Pourquoi ai-je toujours été opposé à la religion organisée? C'est parce que je le vois maintenant, c'est la marque de la bête. Vous voyez, je ne l'ai jamais dit avant ces deux dernières semaines, vous voyez? Maintenant, après la politique de l'Église, que se passe-t-il? Après que la parole a été parfaitement confirmée, maintenant écoutez, ça en est finalement arrivé à un point où il doit y avoir un règlement. La prochaine chose qu'ils vont faire maintenant est, qu'est-ce que les Juifs ont fait après que l'Église l'ait rejetée? L'Église a rejeté la parole. Ils ne voulaient rien avoir à faire avec elle. C'était un mauvais esprit. Elle connaissait les pensées dans leur cœur. C'était mal. Pourtant, c'était la parole. Les œuvres qu'il a faites témoignaient de lui, confirmaient qui il était. Il ne voulait rien avoir à faire avec ça. Puis la chose suivante, c'est venu à un gouvernement. Et c'est un gouvernement d'Église, parce que toutes les nations sont impliquées. Il y avait une nation païenne qui contrôlait une nation religieuse. Maintenant, c'est tout est religion. Donc, il faut en arriver à une religion mondiale. Oh là là! Un aveugle pourrait voir ça. Et qu'est-ce qu'un aveugle dit quand il voit ceci? Quand il le voit, il va sortir de son aveuglement. Remarquez, là, quand ce Conseil mondial va s'unir, que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Ils ne veulent certainement rien avoir avec ça. Il n'y a donc qu'une seule chose à faire. Alors, exactement ce qu'ils ont fait alors, ils vont le crucifier. Certainement, le faire taire. Ça ne peut plus continuer. Ça ne sera plus autorisé de le faire. La force de la religion des nations ne les laissera plus le faire. Un ministère comme celui qu'on a ici et les choses du genre vont être définitivement fermés. Vous ne pourrez plus le faire sans avoir une sanction du quartier général, de la tête de l'Église. Vous voyez, une image de la bête. Oh, on en est là, c'est tout. Nous sommes arrivés et réellement confirmés. La prochaine étape est de le crucifier. C'est pareil maintenant, ce qui fait que tous ceux qui ne se joignent pas à eux seront expliqués, ne seront plus autorisés à prêcher, vous voyez? Cela crucifie de nouveau la parole confirmée de la parole, la promesse. Arrêtez, vous n'êtes plus autorisé à le faire. Fini les services de guérison, fini la prière pour les malades. Non, monsieur, vous ne pouvez pas le faire, non, plus rien de tout ça. Non, monsieur, vous allez passer par le conseil des églises, vous ne pourrez plus du tout le faire. Maintenant, vous comprenez pourquoi je suis contre la dénomination de religion, parce que c'est la marque de la bête. Rome en est la tête à la première, c'est tout à fait vrai. Et ça fait que tout le monde l'apprend en adhérant aux filles, c'est l'image. Sa mère a fait la même chose. Où Rome s'est-elle organisée la première fois? Quelle était la première religion organisée au monde? La catholique romaine. Si quelqu'un a un mot à dire, c'est que ce n'est pas le cas, qu'il me le dise. Ça ne se trouve pas ici. La première organisation, la première église jamais organisée était à Nicée, Rome. Oui, monsieur. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et qu'a fait Luther après sa mort? Ils ont fait la même chose qu'ils ont fait à Nicée, Rome. Qu'ont-ils fait après Wesley? Qu'ont-ils fait après tous les grands mouvements qui sont élevés? Ils ont fait la même chose. Ils ont fait des filles à la prostituée. Tout aussi parfaitement, comme par la même, nous voyons ici, j'avais une petite écriture notée ici, je ferais peut-être mieux d'omettre ça, mais bon, regardez, ils avaient, l'organisation de l'Église a mis en place le même système aujourd'hui. Tout ce dont ils ont besoin, c'est de la dynamique de la chose, juste quelque chose pour la mettre en marche. Et cela en arrive au moment de la confrontation. Tout de suite, l'Église catholique et les Églises protestantes vont devenir amies. Je vous le dis depuis une trentaine d'années. Elles vont s'unir et vous voyez exactement ce qu'ils font maintenant. Les protestants ne deviendront jamais catholiques, mais ils seront associés dans la fraternité, une marque de la bête à l'image de la bête. Comme par les mêmes moyens que la mère, Ève a corrompu le monde entier dans une mort physique. La mère Ève, écoutez, mère Ève a corrompu toute la race humaine par la mort physique. Comment? En rejetant la parole et en acceptant quelque chose qui est presque pareil à elle. Elle est la cause de toute mort physique parce qu'elle a laissé la vraie parole et elle a cru la vraie parole sauf un tout petit peu. Un seul petit désaccord avec la parole de Dieu a causé chaque douleur, chaque mort et tout ce qui a jamais été sur la terre. Ève l'a fait, la mère de la mort. Maintenant, vous voyez où nous voulons en venir? La mère de la mort, remarquez, elle a simplement été incrédule à la parole. Elle a dit, Dieu a dit, Satan a dit, c'est vrai. Dieu a dit, c'est vrai. Dieu a dit, c'est vrai. Dieu a dit, oui, ça, c'est exact. D'une certaine façon, c'est vrai. Mais tu vois, ce n'est pas tout. Tes yeux vont s'ouvrir, tu seras. Mais Dieu a dit. Et cela règle la question. La parole, vous voyez, ça a commencé juste avec une petite erreur d'interprétation de la parole. Et c'est la même chose, ça se termine de la même façon. Remarquez, fille, elle est produite d'une mère et d'un père par une union. Maintenant, voici quelque chose de choquant. Mais la mort physique est l'union de la mère Ève et de Satan ensemble en étant incrédules à la parole de Dieu. Ils se sont unis et ont introduit le produit de la mort. Elle, la mort est le produit de l'union de Satan et Ève ensemble. Ève avait la parole. Satan est contre la parole. Et regardez, à presque 99 et 99 centièmes, Satan a admis qu'elle avait raison. Tellement proche. La Bible a dit dans les derniers jours, c'est que ça séduirait même les élus si c'était possible. Voyez, comme ça s'introduit, comme ça a toujours été, comment ça se termine. De la même façon, l'union de l'incrédulité dans l'entière parole de Dieu. Vous saisissez? C'est ce qui a produit la mort. C'est l'union de l'incrédulité avec la parole. L'incrédulité, juste une petite minime partie de cela, petite minime, minuscule partie, un centième de 1%, mais ça doit être 100%. C'est tout. Remarquez. La fille de Dieu, l'Église, l'épouse, est aussi un produit de Dieu et de sa parole qui s'unissent. Le Saint-Esprit qui s'unit à un corps de chair. Cela a produit le Fils de Dieu, un produit de la justice de Dieu. Et au dernier jour, comme on nous le dit, ce qui arriva au jour de Sodome, l'épouse sera unie par la parole de Dieu manifestée dans la chair, le Saint-Esprit qui les scelle en Dieu. Et qui scelle l'incrédulité au dehors, à l'extérieur. Comme je l'ai dit, si la vie de Beethoven était en vous, vous vivriez comme Beethoven. Si la vie d'Hitler était en vous, vous vivriez comme Hitler. Et quand la vie de Christ est en vous, vous vivez comme Christ. Et vous faites les œuvres de Christ. Ce sera ainsi. Si Christ vivait aujourd'hui, il ferait exactement ce que la parole a dit qu'il ferait aujourd'hui. Et la parole a dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi ce monde ecclésiastique aveugle ne peut-il pas voir l'heure à laquelle ils vivent? Voyez? Ève a causé toute mort physique en essayant d'injecter un peu d'hérésie de Satan dans la parole. Et c'est la même chose qui est arrivée à l'Église à Nicérome en acceptant les dogmes au lieu de la parole. C'était la même chose avec les méthodistes, baptistes, presbytériens quand la lumière jaillit dans chaque âge et qu'ils la refusent. C'est pour ça que le luthérien est mort quand Wesley s'est levé. C'était un autre âge. La parole est sortie. Il devait l'accepter ou mourir. C'est pour ça que les pentecôtistes meurent maintenant. Parce que l'âge est ici. La parole a été manifestée. Le temps de l'aigle. Le temps du retour à la parole pour rétablir la foi des pères aux enfants. Et ils sont si unis qu'ils la refusent. Et ce n'est rien d'autre que la mort spirituelle. Comme toujours. Le corps de Dieu uni en tant que son épouse étant un, lui et Christ ensemble, c'est l'Esprit qui œuvre dans la chair de l'Église comme il a œuvré dans la chair de Jésus-Christ parce qu'elle fait partie de son corps. Pas deux, mais un. Ils sont un. Un mari et sa femme ne sont plus deux, mais un. Et Christ et son corps ne font qu'un. Et le même Esprit qui était en Christ est dans son épouse, dans son corps, qui les unit ensemble avec toute la parole. Et Dieu qui vit là-dedans, lui-même qui la manifeste. Et l'Antichrist dira, « Oh, je crois en Christ, je crois en l'Évangile, je crois en ces choses, mais tu sais, voilà, c'est ça, mais tu sais, le temps des miracles est passé, ça n'existe pas, tu vois, vous y êtes. Oh, je ne crois pas qu'on doit être baptisé au nom de Jésus-Christ, mais la Bible dit que vous l'avez fait. Maintenant, qu'un théologien soit donc en désaccord avec cela, voyez, il le faut. Vous dites, eh bien, le baptême, ça ne fait aucune différence. Eh bien, alors, pourquoi est-ce écrit, pourquoi cela a-t-il fait une différence pour Paul? Pourquoi cela a-t-il fait une différence pour tous les autres? Soit que vous êtes baptisé. La Bible a dit, vous avez un nom par lequel vous vivez, et vous êtes mort, car il n'y a pas d'autre nom. Donné sous le ciel, pourquoi prêchez-vous en ce nom, priez-vous en ce nom, tout le reste, mais quand vous arrivez au baptistère, vous le rejetez. Oui, voyez, j'ai dit à un autre homme l'autre jour, j'ai dit, si un homme, il a dit, ça ne fait aucune différence, j'ai dit, si un homme vient à vous, et vous dit qu'il a été baptisé au nom de la rose de Saron, du livre de la vallée, de l'étoile du matin, diriez-vous qu'il est correct? Il a dit, non, monsieur. J'ai dit, le baptiseriez-vous? Oui. J'ai dit, comment le baptiseriez-vous? Il a dit, au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. J'ai dit, très bien, maintenant, vous avez fait exactement, vous avez placé. Si vous nommez ce nom, vous avez fait la même chose que lui a fait quand il a dit, rose de Saron, livre de la vallée, étoile du matin, parce que ce sont des titres, Père, Fils, Saint-Esprit est un titre. Voyez? Il a dit, mais Jésus a dit de baptiser au nom. J'ai dit, c'est exactement ce qu'il voulait dire. Mais dans quel pas? Il n'a pas dit ces mots, baptisez-les au nom. Le nom. Oh là là, j'ai dit Père, Fils et Saint-Esprit sont des titres. Le nom du Père, du Fils, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, voyez? J'ai dit, qu'est-ce que Pierre a dit que c'était? Qu'est-ce que les autres ont dit que c'était? Voyez, qu'est-ce que c'est? Ah oui, le Seigneur Jésus-Christ est le nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Il a environ 30 000 indigènes qu'il doit rebaptiser maintenant. Voyez, très bien. C'est exact. Paul a dit, c'est un ange du ciel. Voilà dit à ceux qui n'avaient pas été baptisés au nom de Jésus-Christ, acte 19:5, que pour recevoir le Saint-Esprit, ils devaient venir. Bien qu'ils criaient et louaient Dieu et faisaient de grandes choses, il a dit qu'ils devaient revenir et être rebaptisés une fois de plus au nom de Jésus-Christ. Après que Jean-Baptiste les eut baptisés, ils devaient revenir et être rebaptisés. Il a dit dans Galates 1:8, si un ange enseigne autre chose que ce que je vous ai enseigné, qu'il soit anathème. Oui, monsieur, nous devons donc s'en tenir strictement à cette parole, s'en tenir à chaque parole, voyez? remarquez, n'ayez pas de doute, soyez absolument sûr. S'il y a le moindre doute dans votre esprit, vous feriez mieux de redresser ça maintenant. N'attendez pas jusque-là, ce sera trop tard. N'attendez pas de prendre la marque si profondément que vous ne la verrez plus jamais. Vous serez aveugle. Il a aveuglé Israël afin qu'il puisse manifester sa parole. Il fait la même chose aux gens des nations, parce qu'ici, ils sont en train d'y entrer tout comme ils l'ont fait à l'époque. Remarquez, Ève a rejeté ses droits et les a perdus. Après avoir vu la parole confirmée par Dieu, ce qu'il avait fait, il l'a rejeté, il a perdu ses droits. La même chose qu'ils ont fait à Nicée, à Rome, et la même chose qu'ils font maintenant au Conseil des Églises, exactement. Frère, il y a de la Genèse à l'Apocalypse, la même chose. C'est ce qu'Israël a fait, c'est ce que Pilate a fait, c'est ce que tout le monde a fait. Toujours depuis Ève jusqu'à maintenant, la même chose. Ils rejettent la parole confirmée et prennent un dogme à la place. Cela entraîne la mort spirituelle. La mort, la parole est encore prêchée aux morts. C'est exact. Ce ne sera pas le cas pendant le millénium, vous voyez. On l'aura déjà prêché. Ils sont peut-être en train de l'entendre en ce moment même, vous voyez. Les fils de Caïn, qui étaient le produit de l'incrédulité de la parole de Dieu, les fils de Caïn se sont moqués du message du prophète Noé. Avez-vous remarqué ça? Avec la parole de Dieu, il avait apporté le jugement qui prédit. Il y avait des signes très clairs, des signes confirmés que le temps était à la fin, et les fils de Caïn s'en sont moqués. Tout comme ils le font maintenant, tout comme qu'ils l'ont fait du temps de Jésus, tout comme ils l'ont fait à travers tous les âges. Cela a toujours été. Il rit et se moque de cela. Il a dit, dans les derniers jours, il y aura des moqueurs qui diront, il n'y a pas de différence aujourd'hui depuis que nos pères se sont endormis. Vous voyez? Tout comme les fils du diable, par le moyen de systèmes religieux à la parole manifestée au temps de Jésus-Christ. Regardez, c'est le système religieux du peuple juif. Soros. Le peuple juif qui aurait dû savoir ce qu'il en était, mais leur système les a entraînés à rejeter et à se moquer de la parole de Dieu qu'ils prétendaient croire manifester. Pas une seule parole de travers. Ils ont fait la même chose. Tout comme ce qu'ils font aujourd'hui, le système religieux dans cette grande machine qu'ils ont mis en place maintenant va absolument rejeter les promesses au temps de la fin, avec le message du temps de la fin et le signe du temps de la fin de tout ce qui doit être, comme Dieu l'a prédit, parole sur parole. C'est sur bande, s'ils m'abattent ou quoi qu'ils puissent faire, ils n'arrêteront jamais ce message. Vous voyez? Il va continuer comme si rien n'était. Vous voyez? Il est déjà sorti. Il est enregistré. Il est parti. Vous voyez? Il ne pourrait jamais. C'est la parole de la fin. Maintenant même, parfaitement confirmé et prouvé encore et encore et encore par des signes et des prodiges, par la mécanique, par la dynamique, par la science, par l'Église, par Dieu lui-même. Il a prouvé que c'est là, à la fois par la parole, les signes et les prodiges, un message approuvé de Dieu parmi vous par les signes et les prodiges de l'homme. Un message que Jésus-Christ n'est pas mort, mais qu'il vit exactement comme il a toujours été et qu'il envoie, et cela accomplit exactement Malachie 4 et toutes les autres écritures que Jésus a prédit qui arriveraient dans les derniers jours sont totalement accomplies à la fois scientifiquement et par le monde. Et les magazines ont publié de grandes photos des cercles de lumière qui avaient été prédits ici, les anges de Dieu qui sont descendus, dont ils ne savaient rien, et à travers le monde, partout, c'est prouvé, dans le monde entier. Ensuite, c'est la crucifixion. Nous faisons face. Comme Jésus l'a dit alors, « Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. » Mais non, que ta volonté soit faite, voyez, sur la terre comme au ciel. C'est ce que l'Église dit aujourd'hui du fond du cœur. Moi, me joindre à quelque chose? Non, Seigneur, non. Que ta volonté soit faite comme au ciel. Remarquez. Remarquez après que la parole promise pour l'âge eût été confirmée, ils l'ont rejetée. Ils ont fait la même chose aujourd'hui. Et maintenant, je vais bientôt terminer. Et comme il est venu à ce moment-là, en s'identifiant clairement comme étant la parole, et que ça en est venu à l'épreuve de force, où il doit choisir la parole ou prendre le système, on en est venu au même point aujourd'hui, on doit choisir entre la parole ou prendre le système. Ils ont pris le système. Bon, qu'est-ce que ça fait? En terminant, il est entre les mains du monde. C'est vrai. Maintenant, mon sujet, j'ai bâti pendant un bon moment autour, mais je ne fais que commencer, vous voyez. Ne vous levez pas, je ne faisais que plaisanter. Regardez, voici mon sujet. Nous le connaissons. Ça, c'est poser les bases. Nous avons tout en un seul coup ici. Maintenant, regardons le franchement et voyons à quoi il ressemble. Passons-la sous la loupe. Jésus est entre les mains des gens. C'est entre les mains de l'Église. Que ferez-vous de ce Jésus qu'on appelle la parole ointe? Le Christ signifie la parole ointe, vous voyez? Que ferez-vous de ce Jésus que Pilate a dit? Que dois-je en faire? Quoi? Quelle est ma décision? Que ferai-je de ce Jésus qu'on appelle Christ? Qu'est-ce que le monde a crié? Qu'est-ce que l'Église a crié? Crucifiez-le. Arrêtez ça! On n'en veut plus! Je vais vous demander quelque chose. Pouvez-vous imaginer la culpabilité entre les mains d'Oswald ce matin, celui qui a assassiné le président? Pouvez-vous imaginer ce que sera son jugement s'il est prouvé que c'est lui qui l'a fait? Pouvez-vous imaginer qu'on lui accorde la moindre miséricorde? Le sang du président des États-Unis est sur ses mains. Pensez-vous que la Cour fédérale, peu importe combien il peut plaider, je ne voulais pas le faire, cela ne l'excusera pas du tout. Il va périr. Pourquoi? Il a le sang du président sur ses mains. Pouvez-vous imaginer ce qu'il ressent? Voudriez-vous cela sur vos mains? Alors qu'en est-il du sang de Jésus-Christ? Pensez-vous que vous serez excusé après que ce soit parfaitement confirmé? Comment allez-vous y échapper? Son sang est sur vos mains, coupable. Pécheur, que vas-tu faire maintenant? Que vas-tu faire après la réunion de ce matin? Penses-tu pouvoir dire, eh bien, j'avais l'intention, je ne voulais pas mal agir? Oswald pourrait dire la même chose. Si la justice de la Cour suprême demande justice, elle va le faire. C'est l'absolu de la nation. La nation entière est attachée à cette Cour suprême. Et il ne peut rien y avoir de plus. Il a commis le crime. Il doit payer pour ça. Peu importe combien il ne le voulait pas, quelles étaient ses intentions, ni rien à ce sujet, il va payer pour cela de toute façon. Si notre Cour suprême et sa justice exigent une juste rétribution, combien plus grand quand vous vous retrouverez au tribunal du jugement de Dieu, quand vous viendrez avec le sang de Jésus-Christ sur vos mains? Que vais-je faire de ce Jésus qu'on appelle la parole ointe? Vous l'avez entendu. Vous savez que c'est la vérité. C'est parfaitement confirmé. Un meurtrier. Préférez-vous un meurtrier dénominationnel de la parole plutôt que le Christ innocent? Voudriez-vous crucifier? Oseriez-vous choisir Barabbas? Pourriez-vous demander Barabbas? Comment quelqu'un pourrait oser faire cela? De demander Barabbas, le meurtrier de la parole, plutôt que de prendre la parole elle-même, qui est la vie. Et c'est sur vos mains. Lorsque j'ai entendu parler du meurtre du président Kennedy, ce message m'est venu à cœur. J'ai pensé, qu'est-ce que cet homme va faire? Il n'y a plus moyen d'en sortir maintenant. Il pourrait se réveiller à ce moment-ci et réaliser ce qu'il attend. Et vous allez vous réveiller à un moment donné, ici ou sur la bande, où que vous soyez. Vous allez vous réveiller à un moment donné, pécheur, et réaliser qu'il y a du sang sur vos mains, le sang du Fils de Dieu, et que vous êtes coupable de l'avoir assassiné. Votre péché l'a assassiné. Votre incrédulité dans sa parole, vous manquez de voir son identification, vous attristez le Saint-Esprit, et que vous pouvez faire d'autre que vous de vous tenir au jugement de Dieu, sachant ce qui va vous arriver. Oui, le sang de John Kennedy sur les mains d'Oswald sera une chose mineure à comparer au sang de Jésus-Christ sur vos mains quand vous vous tiendrez devant Dieu. Que ferais-je de ce Jésus qu'on appelle Christ? Pilate disait, il avait été remis entre ses mains. Et le sang de Jésus-Christ est remis entre les mains de cette assemblée, c'est mis entre les mains de cette nation et partout dans le monde où ces bandes ont été et les choses qui ont été confirmées, prouvées par Dieu. Maintenant, que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle le même hier, aujourd'hui et éternellement? Que ferons-nous de ce Jésus? Êtes-vous prêt à prendre votre place à ses côtés? Pilate. Et tout comme Pilate l'a fait, il reste trois choses que vous pouvez faire de lui. Pilate a essayé les trois et il a manqué. Trois stratagèmes que vous pourriez essayer, mais ça ne marchera pas. Pilate a essayé de s'en laver les mains. Mais une fois mis entre vos mains, c'est sur vos mains. Pilate a essayé trois manières différentes et a échoué. Nous devons admettre qu'il est sur nos mains. Nous l'avons vu dans sa parole. Nous le voyons lui-même confirmer ce qu'il est. Nous savons qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, n'est-ce pas? Alors, je ne parle pas seulement à cette assemblée ici, ce matin, parce que je ne parle qu'à 600-700 personnes peut-être, mais je parle à des millions sur cette bande qui va faire le tour du monde. Vous voyez, il est sur vos mains. Vous qui écoutez les bandes, où que vous soyez, vous savez que c'est la vérité. Si vous ne le savez pas, alors vous êtes aveugle. Vous ne pouvez pas voir la parole, non plus que vous ne pouvez pas voir Dieu dans la parole. Il est sur vos mains maintenant. Qu'allez-vous faire de lui? Pilate a essayé de se débarrasser de lui, mais nous devons faire face aux faits. Pilate a dû y faire face. Il le savait. Il avait entendu. Eh bien, vous dites, je n'ai jamais rien vu de tout ça. Vous l'avez entendu de toute façon. Vous l'entendez maintenant. Voyez, il voulait que Jésus fasse un miracle ou un tour pour lui. Mais il ne faisait pas de tour. Il faisait seulement ce que Dieu lui disait de faire. Vous avez entendu. La foi vient de ce qu'on entend. Vous avez la foi et vous vous en éloignez pour l'enlever de sur vos mains. Mais il faut vous faire face aux faits de toute façon. Il l'a fait. Nous aussi, nous devons faire face aux faits. Il est pleinement identifié. Pensez-y. Avec le sang d'un homme sur vos mains. L'homme doit faire attention quand il a le sang d'un autre homme sur les mains. Regardez un avion, un pilote d'avion, quand il part avec cet avion. Il vérifie chaque instrument. Pourquoi? Il a le sang de quelqu'un sur les mains. Chaque petit instrument qui peut être vérifié, il le vérifie. Quand il part, il fait pivoter l'avion, il passe en revue le moteur, l'engin, il s'assure qu'il est réchauffé, et appuie sur l'accélérateur jusqu'au fond pour s'assurer que l'explosion va, s'il est capable de forcer ou de pousser le moteur avec suffisamment d'air pour l'élever du sol. Vous avez été plusieurs d'entre vous dans un avion ou assis là-dedans, et l'avion au complet s'est presque envolé, il donne tout ce qu'il a. Pour voir s'il y a quelque chose qui cloche. Si ça arrivait, il va crépiter et tomber en panne. Mais il vérifie encore une fois et s'il doit rester là un moment jusqu'à ce qu'il le vérifie de nouveau. S'il le retarde un peu, il vérifie à nouveau. Combien l'Église devrait le vérifier à nouveau et encore et encore et encore. Nous attendons sa venue. Nous nous réveillons. Nous attendons le décollage. On ferait mieux de le vérifier avec la parole, non pas avec ce que quelqu'un a dit. Soyez-en sûr vous-même par une expérience personnelle avec Christ. Vérifiez-le encore et encore et encore. Pourquoi? Il a le sang d'un homme sur ses mains. Il ferait mieux de vérifier. Qu'en est-il d'un médecin avant une opération? On a quelques médecins ici ce matin. Remarquez qu'un médecin, ce qu'il va faire avant d'aller en chirurgie. Il veut une radiographie. Il veut vérifier le sang. Il veut vérifier le cœur. Il veut voir si vous avez un rhume. Et avant de faire l'anesthésie, il veut vérifier chaque instrument. Il le fait bouillir complètement pour s'assurer qu'il n'y a pas de germes dessus. Il fait tout. Il vérifie encore et encore et encore et encore. Pourquoi? Il a le sang d'un homme sur ses mains. Il veut être absolument certain que tout est aussi en ordre que possible. Qu'en est-il de vous? Et toi, pécheur, qu'est-ce que tu en penses? D'avoir le sang d'un homme sur tes mains, la responsabilité comme un pilote, et il vérifie, le médecin, il vérifie, et qui d'autre, tant de scientifiques, quand on a le sang d'un homme sur les mains, qu'est-ce que vous feriez lorsqu'un juge va prononcer une sentence? Regardez comme il scrute ses livres encore et encore et encore et encore et encore et encore. pour chaque petite chose qu'il peut voir avant de prononcer la sentence, parce qu'il a le sang d'un homme sur les mains. Il doit y avoir quelque chose ici pour justifier ça. Voyez, qu'en est-il de nous? Quand nous voyons cela bien identifié, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il est ici, il est sur nos mains, il est sur nos mains. Il est sur vos mains. Qu'allez-vous faire de lui? Que ferai-je de ce Jésus qui est le Christ oint? Qu'est-ce que ça fait? Comment savez-vous que c'est lui? La promesse de ce jour-ci, le jour où nous vivons, il y a tant de choses que l'Écriture dit, tant de centièmes de cela sans s'accomplir, les derniers centimètres de ce dernier jour, il y a quelque chose ici qui sont censés arriver, et les voici. Qu'est-ce que c'est? Le même Christ oint, la parole ointe. Qu'allez-vous en faire? Allez-vous le vendre à la dénomination? Maintenant, qu'a fait Pilate? Pilate a essayé de s'en laver les mains. En disant, la première chose que Pilate a fait, c'était d'essayer de s'en laver les mains, en disant, oh, il est correct, il va bien. Voyez, vous dites, oh, pauvre Pilate, Pilate, beaucoup d'entre eux le justifient. Non. Il était sur ses mains. Il avait entendu le message. Il avait vu la parole. Il était sur ses mains. Il est aussi sur vos mains. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de dire, eh bien, c'est un brave homme, je ne trouve aucune faute en lui, si ce n'est pas la réponse de bien des gens aujourd'hui. Oh, il n'y a rien de faux avec la parole, je pense que c'est en règle, la Bible est très bien, mais nous croyons l'Église, notre dénomination n'est pas d'accord avec cela. Vous voyez, il y a une catégorie de gens qui essaient de s'en laver les mains. Je ne trouve aucune faute dans la parole, c'était bien pour les apôtres à leur époque, mais nous vivons à une autre époque. Nous ne vivons pas à l'époque des apôtres, donc je ne suis pas obligé d'agir comme les apôtres. Je n'ai pas besoin d'être baptisé de la même manière qu'eux. Je vis à une autre époque. Je n'ai pas besoin d'avoir les choses qu'ils avaient. Je vis à une autre époque. Le Saint-Esprit n'a été donné que pour ce groupe. Hébreux 13:8 le remet sur vos mains. Pas de porte de sortie. Il est parfaitement confirmé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous n'avez pas d'échappatoire. Vous ne pouvez pas le remettre à un autre âge. Hébreux 13:8 condamne vos pensées. Il le remet sur vos mains. Ainsi, Jésus est sur vos mains, tout comme Pilate. Regardez, vous dites, mais je ne sais pas. Eh bien, pourquoi? Écoutez-vous. Pilate était un païen. Sa femme était une païenne. Mais Dieu, pour que ce soit juste, a envoyé cette femme-là et a dit, « N'ai rien à voir avec cet homme juste. » Et elle a dit, « J'ai souffert aujourd'hui. » Bien sûr, c'était le matin, c'était pendant la nuit, et 24 heures sont considérées comme un jour. « J'ai souffert en rêve cette nuit à cause de cet homme de juste. » N'ai rien à voir avec cela. Maintenant, il a dit, « Eh bien, si tel est le cas, je vais simplement m'en laver les mains. » Mais il ne pouvait pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire non plus. Une fois que vous avez entendu la vérité, vous devez l'accepter ou la nier. Pas moyen. Oui, monsieur, vous devez le faire. Des avertissements du Seigneur. Les Juifs ont crié, « Que son sang retombe sur nous, car nous croyons nos sacrificateurs, notre système dénominationnel, avant de le croire, lui. » Vous y êtes. Voyez les catégories aujourd'hui? Mais tous doivent faire face à la question de Dieu. Vous devez tous le faire de toute façon. Païen ou quoi que vous soyez, incroyant, méthodiste, baptiste, presbytérien, tiède, froid, chaud, ou quoi que vous soyez, vous devez quand même faire face à la question, que vous le vouliez ou non. C'est sur vos mains. C'est exactement ça. Puis il y a ceux qui tentent l'autre stratagème de Pilate. Pour esquiver la question, il le transfère à un autre César, voyez. Pilate a dit, attendez un instant, je ne veux rien avoir à faire avec ça. C'est un homme juste, je ne veux rien avoir avec lui. Je crois que ce que j'ai entendu, je ne l'ai jamais vu faire un miracle, mais il y a trop de témoins qui sont pour lui. Je crois qu'il est un homme juste, c'est un homme bien, voyez, mais je ne veux rien avoir à faire avec ça. En ce qui me concerne, je vais juste m'en laver les mains, apportez-moi de l'eau, vous êtes tous témoins ici. Oui, mais Dieu était témoin aussi. Il était sur ses mains, et il est sur vos mains aussi, voyez. Vous savez de quoi je parle, voyez, non seulement vous, mais cette bande. Il est sur vos mains. Qu'allez-vous faire de lui, de ce que Jésus qu'on appelle Christ, Christ est la parole ointe, vous voyez, qu'allez-vous en faire? C'est le message de l'heure. Le jour est arrivé, parfaitement prouvé par la Bible et par Dieu. Qu'est-ce que vous allez en faire? Comment allez-vous esquiver la question maintenant? Comment allez-vous vous en tirer? Il est sur vos mains. Et le cas d'Oswald sera mineur à comparer au vôtre. Que vous soyez ministre ou qui que vous soyez, ces Juifs étaient des sacrificateurs, des rabbins, des docteurs, des hommes saints, mais ils étaient quand même sur leurs mains. Ils étaient la parole, la question de Dieu. Pour ce jour-là, ils ne l'ont pas reconnu. Seuls les élus l'ont reconnu, ceux qui l'ont cru. Maintenant, tous doivent faire face à la question. À chaque âge, il en a été ainsi à chaque fois, au long de l'âge d'Ève, d'Adam et Adam, jusqu'à l'âge de Noé, puis au temps de Daniel et Belshazzar et Nebuchadnezzar, puis jusqu'au temps de Christ, jusqu'à l'heure même où nous vivons, ça a été la même chose. La question de la parole a fait surface. Pas leur credo, ni la dénomination, ni le dogme, mais la question que la parole a été contre ces choses. Alors maintenant, c'est sur les mains. Ceux qui ont essayé l'autre stratagème de Pilate, pour se débarrasser de lui en le faisant passer à quelqu'un d'autre. Pilate a dit, « Maintenant, vous savez quoi? Je vais l'enlever de sous mes mains. Je vais m'en laver les mains avec cette eau. Donc, je dois faire quelque chose de lui. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'envoyer au quartier général avec l'évêque. » Ah oui, oui. C'est ce qu'ils essaient de faire aujourd'hui, vous voyez. Ils l'ont envoyé à un César. Cela ne l'a pas enlevé des mains de Pilate, ni des mains de personne. Qu'est-ce que cela a fait? Ça s'est retourné contre lui. Ça revient directement sur l'individu. Vous dites, eh bien, je voudrais le faire, je l'accepterais si ma dénomination l'acceptait. Votre dénomination est dans le Conseil des Églises, condamnée. Comment vont-ils le recevoir? Ça se retourne contre vous. Ce n'est pas ce que dit votre dénomination, c'est ce que vous dites. Ils l'ont rejeté. Maintenant, qu'allez-vous en faire? C'est la chose suivante. Vous voyez, cela ne l'enlève pas de vos mains. Il est parfaitement confirmé. Il est parfaitement identifié, la parole de cette heure, la promesse de cette heure. Pas la promesse de l'heure de Luther, c'était cela. Alors, c'était la parole dans l'âge de la réforme. Comment, vous tous qui avez entendu les sept sceaux quand l'âge des réformateurs s'est terminé, la bête avec la face semblable à un homme, l'organisation est sortie. Mais c'est la face de l'aigle, la bête, qui est sortie pour le défi d'aujourd'hui. Et qui oserait dire que ce n'est pas la parole inspirée de Dieu? Quand il l'a annoncé ici, il m'a envoyé en Arizona pour la ramener immédiatement, même avec la science et tout le reste, et l'approuver. Ce livre est déjà ouvert, c'est vrai, attendant juste que le septième sceau soit identifié de la venue de Christ. Très bien, il est sur vos mains. Vous devez faire quelque chose de lui. Ne vous en défaites pas. Oui, monsieur, dans cette catégorie, j'aimerais dire, le transférer à quelqu'un d'autre. Si ma dénomination l'acceptait, frère Bonhomme, je l'accepterais. Mais voyez-vous, ma mère faisait partie de cette église. Elle a vécu dans son âge. Ce n'est pas vous. C'est vous maintenant. Regardez de quoi elle a dû sortir pour être ce qu'elle était. Qu'en est-il de vous? Très bien. Regardez, vous dites, ma mère était pentecôtiste. Elle a fait ceci et cela. Elle est sortie de l'organisation, mais j'essaie de vous parler maintenant. Qu'en est-il de vous? Voyez, dans cette catégorie, on trouve beaucoup de personnes instruites. Bon, je sais que je vais en blesser ici, mais je n'ai pas fait intentionnellement. Si c'est le cas, je devrais être à l'autel à me repentir. Je l'ai dit avec l'amour divin. Jésus, lorsqu'il était là avec ses pharisiens, ont dû dire, vous avez pour père le diable, vous ferez ses œuvres. Quand même, il a réclamé la paix et la miséricorde pour eux, à la croix. Ceux qui l'ont crucifié, voyez, il n'était pas en colère contre eux. Il a dit « race de vipères », voyez-vous. Voyez, tout, il les a maudits de toutes les manières, voyez. Il a ensuite prié pour eux, à la croix, voyez. Ce n'était pas qu'il voulait le faire, ce n'est pas ça. Mais ils devaient voir l'erreur qu'ils faisaient. Et je dis la même chose aujourd'hui dans cette catégorie de transférer la responsabilité à quelqu'un d'autre, ou une expression que nous avons dans l'armée, se renvoyer la balle. Nous essayons de le transférer comme dans Adam et Ève l'ont fait. Ève a essayé, Adam a dit, la femme que tu m'as donnée, ce n'était pas une excuse pour lui. La femme a dit, le serpent m'a séduite. C'est lui qui a eu une relation sexuelle avec moi, il m'a séduite, il a fait ceci, il ne l'a pas éloigné du tout. Ils sont allés directement au jugement quand même. Oui, monsieur, très bien. Ils ne peuvent pas le transférer. Ils ne peuvent pas dire si ma dénomination croyait. Ceci, je le croirais aussi, mais j'ai été dans cette dénomination. Ça n'a rien à voir avec ça. Les Juifs avaient la même chose, tout comme vous. Et remarquez, plusieurs ici, nous trouvons des hommes bien cultivés dans cette catégorie. Maintenant, écoutez bien. Voyez, la culture de ce que nous appelons la culture aujourd'hui, c'est ce que Satan a présenté à elle avec un peu de sagesse. Il a dit, tes yeux ne sont pas ouverts, tu ne comprends pas tout ce que cela. Elle connaissait la parole et c'était tout. Elle avait vu Dieu confirmer cette parole et ça aurait dû être suffisant. Il la gardait dans la vie éternelle tant qu'elle restait dans cette parole. Quand elle a brisé cette parole, elle avait la promesse de Dieu qu'elle mourrait le jour où elle la briserait. Et quand elle l'a brisée, elle est morte. C'est vrai. Nous avons ici la parole de Dieu confirmé, qui confirme, qui prouve par l'Esprit, qui nous a reçus, il nous a donné le baptême du Saint-Esprit. Nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ, le même évangile, les mêmes signes, les mêmes prodiges, le même ministère, même que la même colonne de feu est visible devant nous, montrant les signes et les prodiges. Il n'y a pas d'excuse nulle part. Et c'est exactement ce que la Bible dit qu'il arriverait dans les derniers jours. Et un appel de Malachie 4 pour rétablir la foi des enfants à leur père. Et juste après cela, les méchants ont marché, ou les justes ont marché sur les cendres des méchants. Le monde entier devait être brûlé et les atomes sont suspendus. Là-bas, les bombes sont sur les rampes. Vous voyez ce que l'Allemagne a fait dès qu'elle a appris que le président était assassiné. Ils ont rapidement rassemblé leur armée parce que c'était la seule chose qui a empêché la Russie de les bombarder. Ils ont attaqué. Kennedy vient de leur faire savoir que dès qu'il ferait cela, il va les balayer de la terre hors de l'Allemagne. Vous voyez, ils pensaient pouvoir prendre le contrôle, mais ce n'était pas encore là. Vous voyez, nous trouvons des prédicateurs intelligents et éduqués, des évangélistes qui essaient de le transférer à quelqu'un d'autre. Vous voyez, pourquoi? Pourquoi Pilate n'a pas dit, eh bien, attends une minute, cet homme, cette femme est venu me dire, j'ai entendu beaucoup de témoignages de toi, tu sais, je suis intéressé, j'aimerais me renseigner, que puis-je faire pour avoir la vie éternelle, monsieur, tu es sur mes mains, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, il aurait dit, es-tu le Messie, es-tu le roi des Juifs? Il a dit, c'est ce que tu as dit, tu l'as dit. Ou, dis-nous le franchement, es-tu le roi des Juifs? Il a dit, c'est dans ce but que je suis né. Il a dit, je ne vois pas de faute en lui, ah oui, eh bien, je vais m'en laver les mains. Il lui a répondu. Il lui a répondu, je ne peux pas le recevoir. Pourquoi? Cela ne diminuerait pas son prestige. Alors il a pensé qu'il l'enverrait au surveillant général et voir ce qu'il a fait à ce sujet. Voyez, la même chose maintenant, la question se pose à nouveau. Qu'allez-vous faire avec elle? La parole. Que devez-vous faire? Demandez au surveillant ou à l'évêque ou à quelqu'un d'autre si vous pouvez changer votre motif et le baptême. Si vous pouvez faire ceci, cela, vous voyez ceci, certainement vous ne le faites pas. Ça vous revient directement. Vous ne le faites pas, vous êtes expulsé. Cela diminuerait le prestige des gens. Il pense, le conseil dénominationnel ne le supporterait pas, comme Pilate qui l'a transféré à César. Il n'accepterait pas ça. César l'aurait mis entre les mains de Pilate. Ainsi, ils essaient de le transférer à leur chef national et ça ne marche pas. Ce truc n'a jamais marché. Il ne marchera pas. Ça n'a pas marché pour Pilate. Ça ne marchera pas pour vous. Ça ne marchera pas pour personne d'autre. Maintenant, deuxièmement, la chose que vous pouvez faire, c'est troisièmement, plutôt, c'est de l'accepter ou de le rejeter. Vous ne pouvez pas vous en laver les mains. Vous ne pouvez pas le transférer à un autre système ou à un autre quelque chose. Vous devez faire face à la question, alors que vous pouvez faire. Comme Pilate, dans la même situation, il a dit, « Donnez-moi de l'eau, je vais m'en laver les mains pour le prouver. » Et quand il est revenu, il devait encore passer en jugement. Ça ne l'a pas excusé. Il a essayé de dire, « Eh bien, s'il n'arrive pas à m'en débarrasser, je vais le remettre entre les mains de César. » Et ça s'est retourné directement contre lui. C'est le cas pour vous aussi, en tant qu'individu. Qu'allez-vous faire? Pas ce que maman a fait, ce que papa a fait, ce que le pasteur fait, ce que Frère Bonhomme fait. Quiconque, c'est sur vos mains. Qu'allez-vous faire à ce sujet avec ce Jésus qu'on appelle Christ? Parce qu'il y a le sang sur vos mains, c'est le sang de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Être coupable de la crucifixion, vous voyez? Vous pouvez le crucifier, accepter votre credo, ou ce que vous voulez, ou dire, eh bien, je vais simplement passer mon chemin, je ne veux rien avoir à faire avec ces trucs d'église. Vous ne pouvez pas faire ça, il est sur vos mains. C'est vrai, je ne peux pas le faire, je vais oublier tout ça. Vous ne pouvez pas le faire, c'est toujours sur vos mains. Eh bien, je vais simplement dire, mon pasteur m'a enseigné ceci. Ça se retourne contre vous sur le champ, c'est à vous, vous savez. Maintenant, vous pouvez le recevoir ou vous pouvez le rejeter. C'est comme vous le voulez. Comment? Il faut que ça aboutisse à l'un des deux. Et maintenant, comme Jésus l'a dit à ses pharisiens, il a dit, vous êtes des pharisiens aveugles, voyez? Qui pourrait dire la même chose aujourd'hui? Vous, les enseignants religieux aveugles, vous pouvez discerner le temps du communisme. Vous luttez tellement contre ça, et vous savez que Dieu a suscité cette chose même pour vous détruire. Voyez? Ils ne connaissent pas les Écritures. Vous pouvez discerner que le communisme va contrôler le monde. Vous pouvez voir cela. Vous pouvez discerner ça. Tous nos sujets sont sur le communisme. Frappez le communisme. Je l'ai tellement entendu que je suis fatigué de l'entendre. Moi aussi, je suis contre. Certainement que je suis contre. Mais je suis plus contre l'homme ou la femme qui rejette Jésus-Christ, la parole. Ou que vous soyez un prédicateur, ou que vous soyez qui que ce soit, vous êtes plus redevable à Christ que ce communiste l'est. Il est ignorant, il n'en sait rien. Vous êtes censé le savoir, vous voyez. Vous pouvez discerner le temps du communisme, mais vous ne pouvez pas discerner le signe du jour dans lequel vous vivez. Jésus a dit à ces pharisiens hypocrites, il a dit, vous sortez, vous observez les cieux, vous dites que le soleil est rouge, sombre, et que demain il y aura de l'orage. Si le soleil est dégagé, qu'il dit, vous dites que demain il fera beau. Vous pouvez discerner les signes du temps et les signes des cieux et l'aspect du ciel. Mais les signes du temps, vous en êtes incapables. Le voilà, le Messie, et ils le rejetèrent. Et nous en parlons toujours du communisme et de choses du genre, mais le signe du temps, nous ne le voyons pas, vous voyez. Nous le négligeons, nous l'omettons. Ils s'unissent maintenant dans l'incrédulité, et ils l'acceptent, mais ils ne comprennent pas, et de voir les signes du temps que la Bible dit qu'il y aurait. L'avez-vous saisi? Il faut terminer. Faisons vite, il se fait tard, vous voyez. Comme leur père, ils font la même chose aujourd'hui. Maintenant, l'heure de la décision est arrivée. Il fallait qu'elle arrive. Vous devez y arriver d'une façon ou d'une autre. Voyez, la crucifixion de la parole à nouveau, ou qu'allez-vous faire? La crucifixion de la parole est proche. Crucifier et arrêter la parole confirmée pour l'amour de la dénomination, comme Pilate l'a fait en essayant de la donner à quelqu'un d'autre. Maintenant, que ferez-vous en tant qu'individu de la parole oint qui est appelée Christ? Le même hier, le même Christ qui a oint la parole au jour de Noé, le même Christ, cet arbre qui était dans le jardin d'Éden, qu'Ève a laissé, et elle mangeait de cet arbre de vie pour prendre de l'arbre de la connaissance, qui elle a laissé l'arbre de vie pour prendre l'arbre de la mort. Du temps de Noé, ils ont fait la même chose. Du temps des prophètes, ils ont fait la même chose. Du temps de Christ, ils ont fait la même chose. Et les voici aujourd'hui, car chacun parlait de son époque, et comme cette chose s'est accomplie, ils ont choisi chaque fois leur raison dénominationnelle et ainsi de suite, et la sagesse du monde au lieu de la parole loin de Christ. Que ferez-vous en tant qu'individu? Pilate n'a jamais réussi à s'en laver les mains. Je termine. Alors restez bien tranquille un instant. Pilate n'a jamais réussi à s'en laver les mains. Et vous non plus, si comme lui, vous essayez l'un de ses stratagèmes. Il n'y est jamais arrivé. Vous savez ce qui est arrivé à Pilate? Il a perdu la raison. C'est arrivé au point où tout ce qu'il entendait, c'était cette crucifixion. Tout ce qu'il pouvait entendre, c'était une rage. Il en est finalement devenu fou. Ils ont une légende là-bas en Norvège, ou pas, je vous demande pardon, en Suisse, où j'ai été là-bas en missionnaire. Ils affirment que des milliers de personnes s'y rassemblent du monde entier le vendredi saint, une mare d'eau où Pilate s'est suicidé. Il s'est finalement noyé volontairement dans cette mare d'eau. Et ils prétendent que chaque vendredi saint, à 3 heures de l'après-midi, l'eau devient bleue. Et il se met à bouillir là où le corps de Pilate repose. Il l'a rejeté. Il a encore du sang sur les mains. Il l'a rejeté. Et il a refusé l'eau. Vous ne pouvez pas vous en laver les mains. Il n'y a pas d'eau ni de savon qui puisse l'enlever. Il est sur vos mains. Que ferez-vous de lui? Voici la seule chose que vous pouvez faire. Si vous ne pouvez pas vous en laver les mains, que vous ne pouvez pas le transférer à quelqu'un d'autre, vous ne pouvez pas simplement le transférer de façon mythique, il n'existe aucun moyen. La seule chose que vous pouvez faire est de l'accepter dans votre cœur. C'est la façon de vous en débarrasser. C'est de l'enlever de vos mains et de le mettre dans votre cœur et de le laisser, ou de le laisser sur vos mains faire face au jugement. C'est la seule chose que vous pouvez faire. La fin de Pilate fut horrible. La parole dit que ceux qui le gardent sur leurs mains, j'allais le lire, mais elle dit, ils crièrent aux rochers et aux montagnes. Ils ont prié, mais leur prière était trop tard, vous voyez. Ils ont crié, « Cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau, c'est-à-dire du bélier, la vie de l'agneau qui est arrivée, car le grand jour du jugement est arrivé. Et qui pourra subsister? Que pensez-vous d'Oswald va faire maintenant quand il va paraître devant la Cour suprême et qu'il va avoir les yeux du jury en colère et tous ceux assis là? Il sait ce qui va arriver. Ce sera une chambre, soit une chambre à gaz, soit une corde suspendue là, ou quelque chose. Il doit y faire face. Et si vous y arrivez là, avec le sang sur vos mains, pour l'avoir rejeté, et de savoir que l'enfer vous attend, la destruction éternelle, ils criaient aux rochers, aux montagnes, ils ont prié, mais les prières arrivaient trop tard. Dans Hébreux 10, si nous péchons volontairement, le péché est l'incrédulité. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la vérité, la connaissance de la vérité, vous n'avez pas besoin de la recevoir, vous n'avez qu'à la connaître. Vous n'avez pas besoin de l'avoir, vous avez juste, oh non, non, ça ne dit pas après avoir reçu la vérité. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance que c'est la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible de l'ardeur du feu dévorera les rebelles. Parce que Dieu a dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution, dit le Seigneur. Si nous refusons d'y croire volontairement, après que la vérité nous a été présentée, il ne reste plus de miséricorde. Plus aucune miséricorde ne sera accordée. Pasteur qui écoute cette bande, qu'en penses-tu? Membre d'église qui écoute cette bande, qu'en penses-tu? Qu'allez-vous faire si nous refusons d'y croire volontairement? On ne peut pas s'en laver les mains. Vous ne pouvez pas le transférer au quartier général. Ça va vous revenir, vous l'avez entendu. Qu'en est-il de vous? Que sera votre position ce jour-là? Il est soit sur vos mains ou soit dans votre cœur, l'un ou l'autre. Que Dieu nous aide. Si vous pouvez juste imaginer un assassinat et ce qui doit indéniablement se passer dans le cœur de cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est réveillé trop tard après l'avoir déjà fait. Écoutez. Il a eu l'opportunité, il est né un Américain libre. Il était un Américain. Mais il a voulu vendre ses droits de naissance pour devenir un Russe. Et ça s'est retourné contre lui. Il a épousé une femme russe. Maintenant, c'est un libre-penseur du Parti communiste de Cuba. Pensez librement. Je pense par moi-même. Vous n'avez pas de pensée qui vienne. Que ferez-vous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Vous n'êtes pas un libre-penseur. La libre-pensée, ça n'existe pas. Que la pensée qui est en Christ soit en vous. Prions. Pensez à ces pensées, que tout ce qui est digne de louange, ce qui est vertueux, soit l'objet de vos pensées. Je parle aux gens parmi nous ce matin, et aussi à ceux qui écoutent cette bande. Si vous êtes ici présent ce matin, et que vous savez que vous n'êtes pas en ordre avec Dieu, et que vous n'êtes pas né de l'Esprit de Dieu, vous dites, eh bien, j'ai fait une confession, ce n'est pas ce dont je parle, Dieu l'a-t-il accepté? Vous pouvez dire, oui, j'ai fait une confession, et ainsi de suite. Oui, je crois, Pilate aussi l'a fait. J'ai fait une confession, sûrement. Qu'est-ce que je vais faire de cet homme juste? Vous ne pouvez pas vous en laver les mains comme ça. Non, non. Qu'allez-vous faire de lui? Si vous n'êtes pas un chrétien né de nouveau avec le Saint-Esprit qui vit en vous, qui a enrichi votre vie, alors pourquoi ne l'acceptez-vous pas maintenant? N'enlèverez jamais ceci de vos mains. Vous n'entendrez jamais la fin de ce message. Cela va résonner jusqu'à ce que vous ameniez le message dans votre cœur que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans cette assemblée visible ce matin, y aurait-il des gens ici qui réalisent qu'ils ont tort et voudraient lever la main? Nous n'avons pas de place pour un appel à l'hôtel. L'endroit est si bondé. Mais dites simplement, priez pour moi, frère Branham. Que Dieu me vienne en aide. Que Dieu vous bénisse. Je vois votre main. C'est là. Je le veux maintenant, ici même. Je veux que Dieu sache que je suis coupable et que je réalise que je suis coupable. Je ne veux plus sur mes mains. Je le veux dans mon cœur. Levez la main. Dites, priez pour moi, frère Branham. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois dans ce nombre de personnes ici, peut-être 40 ou 50, ont levé la main. Il appelle aujourd'hui. Il appelle aujourd'hui. Pensez-y maintenant. C'est lui qui appelle. Jésus appelle. C'est lui qui vous parle. Avez-vous péché au point que votre cœur soit si endurci que vous ne puissiez plus l'entendre? Auparavant, petit garçon, petite fille, vous l'avez entendu. Vous aviez le désir de le faire, mais vous l'avez remis à plus tard. Et vous êtes endurci par ses refus et ses tiraillements. Est-ce rendu au point que vous ne pouvez plus l'entendre? En êtes-vous où vous avez, à l'endroit où Oswald se tient ce matin, où vous savez, ou comment pouvez-vous le faire? Y en aurait-il un autre avant de terminer? Je vais prier. N'importe où dans le bâtiment qui n'a pas encore levé la main, dites, Frère Branham, avec les derniers mots que vous venez de dire, je sens cela. Quiconque dehors, dans les couloirs, le long des fenêtres, n'importe où, ça n'a pas d'importance. Juste que Dieu vous bénisse, jeune fille. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Vous, je vous ai vu. Il est Dieu vous bénisse, madame. Quelqu'un d'autre, que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse ici. Et que Dieu vous bénisse là-bas, petit garçon, petite fille. Ou que Dieu vous bénisse là-bas. Là-bas, monsieur. Oui, monsieur. Maintenant. Pensez-y, je veux que vous fassiez ceci pendant que nous chantons doucement « Jésus appelle ». Bon, je veux que vous disiez simplement « Seigneur, sois miséricordieux envers moi, un pécheur ou un imposteur. Je suis un membre d'Église, Seigneur, mais je te veux. Je te veux, aide-moi. Je veux te servir, je te le promets maintenant même. J'ai levé la main pour dire que je te veux. Maintenant, toi, élève mon cœur afin que je te reçoive. Je vais te recevoir dans mon cœur pendant que nous chantons à nouveau ce couplet. Le ferez-vous? Il appelle aujourd'hui. Il appelle aujourd'hui. Maintenant, priez à votre manière. Priez maintenant. Jésus appelle. C'est lui qui parle. C'est pour ça que vous l'avez levé la main. Appelle tendrement aujourd'hui. Jésus appelle. Oh, écoute sa voix. Écoute-le. Maintenant même, écoutez-le. Dites, Seigneur, je suis coupable. Ton sang est sur mes mains. Je suis un pécheur, je ne le veux plus, là. Je ne peux pas l'enlever, j'ai essayé pendant des années. Je ne veux pas te rejeter comme Pilate l'a fait et essayer de t'envoyer à quelqu'un d'autre. Je te veux, viens dans mon cœur, maintenant même, Seigneur. Je te reçois, je te vois debout devant moi comme une image qui est là par la foi. Je marche droit en toi, sachant que tu me pardonnes. Je suis, tu vas être dans mon cœur à partir de maintenant. Aujourd'hui. Que tout le monde prie. Jésus appelle. Jésus appelle. Il appelle tendrement aujourd'hui. Père céleste, le petit message est terminé. Et maintenant, les décisions, les tribunaux sont ouverts ce matin. Les anges sont rassemblés dans la salle. Le grand Saint-Esprit donne ici les confirmations que Jésus vit encore. Il était la fontaine de la vie éternelle. La tombe ne pouvait pas le retenir, non plus que le séjour des morts le garder. Il est monté en haut, libéré de l'enfer, libéré de la tombe. Il est parmi nous aujourd'hui et nos credos et nos dénominations ont lié beaucoup de nos gens, Seigneur. Le péché les a liés, mais aujourd'hui, ils veulent être libres. Ils se tiennent comme Pilate et au lieu d'essayer de le transférer à quelqu'un d'autre, ils ont levé la main. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je ne te pousserai plus loin de moi. Je ne peux pas le faire. Tu es toujours sur mes mains. Je les ai lavés et tu ne voulais pas partir, mais maintenant, je te reçois. Je te veux dans ma vie et je te reçois dans ma vie. Seigneur, reçois-moi dans ton royaume par le pardon de mes péchés et donne-moi la foi pour croire que tu me reçois, Père. Accorde-le. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Et maintenant, comme nous avons la tête inclinée, la foi, par la foi, et Dieu, aide-moi à être honnête. Mais sachant que tu promets que celui qui viendra à moi, je ne le rejetterai pas. Je lui donnerai la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père et les saints anges. Celui qui entend la véritable et vraie interprétation de Jean 5, 24 ici est celui qui comprend, qui reçoit ma parole. Celui qui reçoit ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne viendra pas en jugement. Vous ne viendrez pas au tribunal du jugement comme un soir, mais vous êtes passé avec un pardon gratuit de la mort à la vie. Seigneur, Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais je crois que c'est arrivé. Je crois que mon cœur, dans mon cœur, mon incrédulité est partie. Je peux librement dire Amen à chaque parole que tu dis, et je l'accepte tout de suite. J'y crois maintenant. Maintenant, avec la tête infinie, vous qui croyez cela, et qui avez levé la main il y a quelques instants, et par la foi, vous voyez l'image de Christ qui se tient là, dans laquelle vous devriez l'être. Vous marchez maintenant par la foi, croyant que vos péchés sont pardonnés, et à partir d'aujourd'hui, vous êtes prêt pour le baptême chrétien, et vous êtes maintenant prêt à marcher en Christ. Voudriez-vous, en témoignage pour lui, lever la main à nouveau, dire, par la foi, j'y crois de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Très bien. Je l'accepte maintenant. J'accepte. Il n'y a rien que je puisse faire. Que Dieu vous bénisse. Il semble que c'est tous ceux que j'ai vus. J'accepte maintenant. Vous voyez, vous n'êtes bon à rien. Vous n'avez jamais été bon. Vous ne pouvez pas. Mais Jésus est mort pour les gens bons à rien. Que dois-je faire, frère Branham? Accepter simplement ce qu'il a fait. Accepter ce qu'il a fait pour vous. Et maintenant, en y croyant et en l'acceptant, maintenant, je crois, le pasteur, le baptistère sera ouvert. Le baptistère sera en ordre si vous voulez être baptisé. Si vous avez pris les titres Père, Fils, Saint-Esprit, vous êtes vraiment, je dis ceci avec révérence et respect, mais à mon avis, vous n'êtes pas baptisé. Vous ne l'êtes pas, car vous n'avez pas fait ce qu'il a dit. Il a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous n'avez eu que ces titres prononcés sur vous. Il n'a jamais dit, allez prononcer ces titres, allez prononcer ces noms. Il n'a jamais fait ça dans la Bible. Ça n'a jamais été fait comme ça. C'était de baptiser de la manière dont Jésus l'a dit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui est Jésus-Christ. Pierre avait les clés, a dit la même chose. Tous les autres apôtres, toute l'Église, jusqu'au premier concile de Nicée, quand l'Église catholique romaine s'est organisée à accepter les titres au lieu du nom, vous êtes baptisé soit dans les dogmes romains de la dénomination ou bien vous êtes baptisé au nom de Jésus-Christ, l'un ou l'autre. C'est sur vos mains. Vous ne pouvez pas vous en laver les mains. C'est là. Vous l'avez accepté maintenant. Je vous demande alors, l'organiste et le pianiste jouent cet hymne célèbre. Ma foi regarde à toi, toi agneau du calvaire, sauveur divin, écoute ma prière et enlève toute ma culpabilité et que je sois tout à toi, entier à toi. Que personne ne sorte du bâtiment, levez-vous doucement maintenant et levons les mains vers lui. Ma foi regarde à toi. Il est la parole. Toi, agneau du calvaire, sauveur divin. Écoute ma prière. Efface mon péché. Que je sois, dès ce jour, entier, entièrement et complètement à toi, j'abandonne maintenant ma vie. L'eau sera prête dans quelques minutes. Si vous ne pouvez pas être baptisé maintenant, nous allons baptiser de nouveau ce soir. Pensez-y toute l'après-midi sur vos mains. Enlevez-le. La seule façon que vous pouvez faire, c'est laver dans le sang de Jésus-Christ qui est, voyez, oui, monsieur, souvenez-vous-en maintenant, comme nous inclinons la tête. Regardez à lui maintenant. Et dans ce lave. La décision est dans votre cœur maintenant. Il passe en jugement. La parole est prête pour la crucifixion. Christ passe en jugement. Que ferez-vous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Oh, sois mon guide. Disperse ces ténèbres. Viens essuyer mes larmes. Que jamais, loin de toi, je ne m'égare. Maintenant, inclinons notre cœur vers cela. Pensez-y bien, mes amis. Il se peut que votre nom soit le dernier à figurer dans le livre. Nous sommes au temps de la fin. Maintenant, pensez-y bien. Êtes-vous, y en a-t-il quelqu'un ici qui l'a rejeté? Souvenez-vous, c'est possible que vous n'en ayez plus jamais l'occasion. Pilate n'a pas eu d'autre chance. Il a fait son mieux pour être sauvé. Il n'a pas pu le faire. C'était sur ses mains. Et qu'allez-vous faire de la parole ointe pour aujourd'hui, appelée le Christ?